Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Comment ça va messieurs ce matin?
Ça va.
On est très très bien. Vous êtes très très bien. Il commence à faire un petit peu chaud dans l'appart de Maxime.
Ouais, on enregistre à 4h du matin, histoire d'être...
Le mensonge, quoi. La fake news direct. Non, ce n'est pas vrai. Il est 10h et voilà, la chaleur commence à taper sur les toits strasbourgeois. Et on commence à avoir bien chaud. Je pense qu'on n'est pas arrivé encore au pic maximal, à mon avis, pour prochains...
Je confirme que non.
Pour avoir passé plusieurs étés à souffrir dès le matin... Il sait de quoi il parle.
Et la bonne nouvelle, c'est que comme je vais changer d'appartement et qu'il fera plus frais, on pourra changer d'appartement pour enregistrer.
Effectivement, d'ailleurs, oui. On tient à appeler toutes les personnes qui sont sur Strasbourg pour nous aider au déménagement d'Excel. Non. Alors, on remercie d'abord notre sponsor Third Edition, donc la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. On les remercie d'abord pour le petit coup de pouce qu'ils nous donnent pour financer l'émission, mais aussi et surtout cette fois-ci pour le livre qu'ils nous ont envoyé, puisque vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler de Shadow of the Colossus, et ils nous ont donc envoyé le livre que je tiens en main. Est-ce que je fais de l'ASMR? Peut-être pas, on va peut-être pas se lancer là-dedans, qui est l'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo, qui a été écrit par Damien Méchery, et Exerve l'a lu, on n'a pas eu tous le temps de le lire, parce qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, mais toi tu l'as lu, et on peut recommander.
Ah bah oui, clairement, c'est assez synthétique, c'est vrai que je m'attendais à un plus gros pavé, vu la trilogie, au final il va vraiment à l'essentiel, ça fait 200 pages, mais t'apprends des tonnes de trucs, notamment sur tout ce qui était création, parce que bon, c'est des jeux qui datent un peu, Ico Shadow, donc c'est pas mal d'avoir comme ça un petit refresh de la mémoire sur ce qui s'était passé, et surtout il y a toute une grosse analyse sur le rôle de la musique, sur le rôle du visuel, où il y a pas mal de questions sur justement l'art, le jeu vidéo, etc. Il se permet comme ça de lancer la grande boîte de Pandore, et bon, il retombe plus ou moins sur ses pattes, donc c'est vraiment intéressant son point de vue qu'il a là-dedans, donc vous pouvez y aller tranquillement.
Et puis ce serait une bonne manière de prolonger ce qu'on va faire avec ce podcast, puisque là on va parler simplement de Shadow of the Colossus, même si forcément j'imagine Kiko et The Last Guardian reviendront dans la conversation. Là c'est vraiment les trois jeux, donc vous avez vraiment l'œuvre de Fumito Ueda, effectivement, en tout cas telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Je ne sais pas sur quoi il bosse actuellement. On remercie aussi également évidemment nos patriotes, puisque c'est ça vraiment le pilier qui nous permet vraiment de produire Fin du Game, qui nous permet de garantir la régularité de l'émission d'une part, mais aussi vraiment de prendre le temps de préparer ces émissions, parce que on le répète, c'est vrai que c'est une émission qui nous demande un certain investissement, à la fois pour faire les jeux, mais aussi tout ce temps de recherche, de préparation, pour vraiment vous proposer une émission qui est à la fois équilibrée et de laquelle vous pouvez vraiment tirer un message quand même assez clair. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Fin du Game, et c'est principalement grâce à vous, même si on a le petit coup de pouce de Third, c'est vraiment le Patreon, qui nous permet vraiment de faire vivre l'émission.
Et donc merci.
Voilà.
Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise d'autre?
Ben oui,
il faut leur dire merci, parce qu'en plus ils sont toujours plus en plus nombreux. Moi j'aime bien, parce que là en plus, en termes de stats, on en parlait tout à l'heure en off, le podcast marche vraiment très bien depuis quelques semaines.
Vraiment,
on est surpris des records. On en est au stade où maintenant il y a des journées sans aucune sortie qui font plus que les premiers épisodes. Donc là on a vraiment maintenant des gros scores d'audience, donc merci beaucoup. Continuez à mettre des bonnes notes sur les logiciels, les applications.
Objectif top 20 d'ici 2020.
Top 20 Spotify, iTunes. Voilà. Patrick Béja, on arrive.
On le salue d'ailleurs. Mais par contre, on a dit qu'on allait garantir la régularité de l'émission. Mais en revanche, l'été arrive. On en parlait avec la chaleur. Malgré tout, on a décidé qu'on allait quand même prendre une petite pause pendant l'été. Le truc, c'est qu'en fait, on a chacun nos vies. On s'est un petit peu organisé tous différemment. On va prendre des breaks un petit peu à des moments différents. Du coup, on sera probablement pas en mesure de faire deux épisodes par mois pendant l'été. On peut essayer de le faire, mais je pense pas qu'on y arrivera. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vous garantira au moins un épisode par mois, et si on peut en faire un de plus, je sais pas, en faire entre, on va dire, trois pendant juillet et août, on va essayer de taper ça. Je sais pas si on va y arriver.
Non,
mais
ce qui est sûr, ça sera un en juillet, un en août, et après la rentrée, on n'a pas encore exactement les dates, mais fin août, début septembre, on reprendra la régularité, évidemment, avec deux épisodes par mois. Mais bon, juillet, août, on va au moins en assurer un, et si on peut plus, on fera plus, mais
De toute façon, sur Patreon, sachez que les épisodes sont le paiement n'est fait que par épisode, donc de toute façon ça changera, vous serez pas débité deux fois, vous paierez pas plus, quoi. Donc il y a pas de souci à ce niveau là et puis Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir vraiment se pencher sur le programme de la rentrée. Là, on est vraiment en train, on va pouvoir prendre un peu de temps pour essayer vraiment de préparer un programme vraiment sympa. On commence, on a quelques pistes. Déjà, là, on va bien finir l'année, enfin, cette première saison, on va dire, avec les deux épisodes qui arrivent après celui-ci. Et puis, bah voilà, ça va être cool, on va pouvoir reprendre et puis peut-être attaquer aussi des jeux qui sont sortis cette année, puisque ça fera bien 6 mois, bien 8 mois que l'année a commencé, donc on pourra commencer à
taper parler un petit peu, ouais, dans le cheptel récent.
Exactement, exactement. Donc, maintenant que tout ça est dit, on va enfin pouvoir commencer à parler de Shadow of the Colossus. C'est parti pour un nouvel épisode de Fin du Game. Alors, Shadow of the Colossus, on va parler du jeu qui est sorti sur PS2, sur PS3 et sur PS4. On va parler vraiment de Shadow of the Colossus, bah, comme on le connaît aujourd'hui. Sachant que c'est marrant, c'est un jeu qu'on a tous découvert à des époques différentes. Puisque toi, Exerve, comme tu es le plus vieux, évidemment.
Oui, je me souviens, en 2006.
Donc, tu l'as découvert quand il est sorti en 2006, à l'époque, sur PlayStation 2. Moi, j'y ai joué, je crois, en 2012, donc sur la version remaster HD sur PS3. Il y avait la collection avec Ico. Et toi, Maxime, bah, tu l'as découvert récemment sur
hier. toujours la blague à chaque fois.
Remaster, remake PS4 qui est sorti en
2018. Février ou mars.
Je continue un peu mon marathon des exclus Sony, du coup, parce que moi j'avais pas de PS3 ou de PS4. Et du coup, bah, déjà pour le podcast, j'avais aussi fait The Last of Us, God of War. Du coup,
D3.
Je continue sur la lancée.
Ouais, effectivement. Donc, bah, c'est marrant parce que voilà, c'est le premier jeu en plus dont on va parler, c'est le plus vieux. Puisque bah voilà, il y en a pas eu même, je crois, avant 2010, je crois pas qu'on en ait fait. Bon, s'il y a peut-être, allez, on peut mettre Demon's Souls dedans quand on avait fait l'épisode sur les Souls, mais je crois que c'est
évoqué, quoi.
Voilà,
ouais,
c'est ça.
On a parlé vite fait, et puis c'est sorti en 2009, mais pas en Occident. Mais là, oui, non, bah de toute façon, Shadow of the Colossus, c'est fin 2005 au Japon, aux États-Unis 2006 pour nous en Europe. C'est clairement le plus vieux jeu dont on va parler, en tout cas dans cette première saison là de Fin du Game, mais c'est peut-être un des plus connus au final parce qu'il a une aura vraiment particulière. Ouais. Enfin, peut-être pas le plus connu, parce que c'est évidemment, je peux pas donner, tu vois, d'explication claire de est-ce que c'est connu ou pas, mais en tout cas c'est vraiment un jeu unique dans le paysage vidéoludique, parce qu'il a une aura très particulière, son créateur aussi, parce que tout le monde connaît en fait le nom de Fumito Ueda, même si on n'a pas forcément joué à ces jeux, c'est un nom qu'on sait être associé à PlayStation, et d'ailleurs bah, PlayStation, ils ont vraiment voulu renforcer ça, parce que Ico, bon, quand il était sorti en 2001, il avait bien fonctionné en termes de critique, mais pas trop en termes de vente. Ils ont quand même fait confiance à Ueda pour continuer de préparer un petit peu ces jeux. Ils ont changé un petit peu de scope, ils ont essayé d'avoir un jeu beaucoup moins intimiste, beaucoup plus dans l'épique, tu vois, dans le grand spectacle, etc., mais avec toujours ces petits twists liés à ses envies artistiques à Ueda, et ça a très bien marché, puisque le jeu, bon, il a eu une réception critique vraiment unanime, il s'est très bien vendu, puisqu'à l'époque, il avait fait un peu plus d'un million de ventes, ce qui, pour le coup, était quand même assez fou, vu comme c'était un jeu qui dénotait totalement du reste de la production à l'époque, parce que on en reparlera un peu plus en détail au cours de l'émission, mais bon, juste pour vous resituer, en 2006, la Xbox 360 vient tout juste de sortir, et donc on est vraiment sur les dernières semaines de vie de la PlayStation 2, et il y a eu tout un tas de jeux qui étaient sortis. Voilà, donc bah, Shadow of the Colossus, c'est vraiment un jeu qui a traversé les époques, hein, littéralement, puisque Sony a continué en fait de mettre en avant ça. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y avait deux choses en parallèle. C'était la promesse du prochain jeu de Fumito Ueda, puisque The Last Guardian a été annoncé à l'époque pour la PS3.
Oui, très tôt dans la vie de la PS3.
Quasiment 2007 ou 2008, je crois, les premières annonces. Donc on est vraiment quelques années après la sortie de Shadow of the Colossus. Au final, il est sorti en 2017.
Tout à fait.
Donc il aura mis beaucoup de temps à arriver. Et bah, en fait, de leur côté, Sony, ils ont continué d'entretenir cette relation particulière avec Fumito Ueda, avec la collection Ico Shadow sur PS3. et le fameux remake sur PS4 de Shadow of the Colossus qui a c'est cette version là que toi t'as découvert, ouais. Max,
qui cartonne d'ailleurs aussi,
et qui cartonne parce qu'elle s'est vendue 2 à 3 fois plus, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais elle s'est vraiment plus vendue que le jeu original, donc c'est un revival qui était en plus totalement mérité, parce que bon, on en reparlera, mais d'un point de vue technique, Shadow of the Colossus ça mettait les Play 2 à genoux, donc c'était je pense que c'était nécessaire, et c'était plutôt bien joué de la part de Sony de vouloir comme ça refaire un gros remake récent.
Ouais, et d'ailleurs du coup ce remake qui n'a pas été fait par le même studio, là il a été fait par Bluepoint, c'est ça, qui sont les gens qui avaient déjà finalement fait la version HD sur PS3 et qui là ont vraiment fait une espèce de travail de restauration, on en parlera peut-être un peu plus, mais là vraiment c'est on peut dire que c'est le même jeu quand même globalement, mais plan graphique il y a quand même un vrai upgrade, il y a les textures qui ont été refaites, les lumières ne sont pas tout à fait les mêmes, donc il y a quand même un petit changement, toi Max.
Après moi j'ai pas fait les jeux d'époque, mais j'ai pu comparer un petit peu sur internet, t'as plein de vidéos comparatives, tu regardes un petit peu les play, on reviendra peut-être beaucoup plus en détail là-dessus, mais en tout cas tu vois que la version PS3 on parle de remaster HD et la version PS4 on parle de remake, donc il y a quand même cette notion un petit peu qu'ils ont retapé un petit peu plus toute l'architecture du truc, mais effectivement c'est quand même le même jeu,
même si le code source est le même, hein, c'est ça
ils ont gardé en fait l'essence du jeu et ils ont juste refait tout l'enrobage, ils ont revu la direction artistique, ils ont modifié certains ajustements en termes de contrôle, en termes de caméra pour que ça soit peut-être un peu plus souple, un peu plus moderne à ce niveau là même si Max nous le dira, c'était pas toujours très convaincant, non mais c'est vrai que découvrir ce jeu là avec quelques années de retard, ça peut être je pense un peu surprenant, et surtout Bluepoint ils se sont fait un nom, puisque du coup ce projet-là de restauration, ça les a mis vraiment sur le devant de la scène. Aujourd'hui, il y a juste eu une annonce il y a 1 ou 2 ans qui disait « On travaille sur un nouveau gros jeu, vous n'êtes pas prêts ?» Tu vois, c'était un tweet un peu comme ça. Et ça a évidemment défrayé la chronique parce que tout le monde avait envie de savoir sur quoi ils vont bosser après avoir restauré aussi, brillamment Shadow of the Colossus. Moi en tout cas c'est vrai que si demain ils me disent qu'ils font une restauration, si c'était eux qui bossaient sur FF7 Remake, peut-être que je leur ferais plus confiance, tu vois, qu'à Square Enix, mais bref, donc voilà, ça, ils ont réussi à se faire un nom grâce à ce projet là et le principe du remake a aussi poussé et encore on va dire une nouvelle étape, parce que les remasters il y en a de plus en plus, mais le remake aussi violent du on refait le jeu intégralement, c'est toujours le même mais avec un enrobage visuel moderne, c'est assez récent comme principe et c'est un des meilleurs exemples.
Très bien. Alors, comme d'habitude, on va rentrer maintenant dans le jeu. On va mettre un petit peu de côté cette histoire de différentes versions. On va vraiment se concentrer sur le jeu. On va parler d'abord de son histoire. Pour moi, c'est un jeu qui a vraiment une structure très fonctionnelle. Shadow of the Colossus, c'est 16 colosses. On est dans un monde qui va nous permettre d'aller battre ces 16 colosses. Et c'est pas un jeu qui a une histoire complexe et ni une narration qui est complexe. Elle est vraiment façonnée par le jeu. Mais néanmoins, il y a quand même un fil rouge à suivre. Et c'est Maxime qui va s'écouler. Puisque c'est lui qui l'a fait le plus récemment.
Et puis ça va, c'est pas un travail trop compliqué, puisque comme tu le disais, c'est un jeu plutôt fonctionnel où la plupart du jeu se fait entre la cinématique du début et la cinématique de fin, qui sont un peu les deux moments où on va vraiment en apprendre sur l'histoire et les personnages. Et du coup, la cinématique du début, on commence avec un cavalier qui a un corps sur son cheval et qui rentre dans une espèce de temple, dans une terre un petit peu vide de toute population. Et le cavalier s'appelle Wander, et le corps, c'est donc une femme morte qui s'appelle Mono. Alors ces noms-là, on les apprend pas dans le jeu, mais ils sont officiels, ça doit être dans la documentation officielle, un petit peu comme le nom des colosses d'ailleurs.
Pour les jeunes qui nous écoutent, Maxime Ego, à l'époque, on avait des petits leaflets. Enfin, c'était un assemblage de cellulose pressée, compressée, qu'on appelait
la notice.
Et on avait dedans des notices.
J'ai l'impression qu'il se fout un peu de notre gueule.
Un petit peu.
C'était incroyable. Hein, et on pouvait lire et ça faisait du bruit quand on. Et ça sentait bon. Moi, j'aimais bien.
Regarde là, tu vois, j'ouvre la boîte de Shadow of the Colossus. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai juste un papelard avec les touches. Et une œuvre pour le PlayStation Plus.
Ouais, c'est vrai. Donc, qui va augmenter de prix, alors dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
Est-ce qu'il y a le nom de Wander derrière la jaquette?
Eh bien, on va tout de suite regarder ça, Maxime. C'est très radiophonique ce qu'on est en train de faire. Non, je ne le vois pas. D'accord. Il n'y a pas le nom de Wander. Donc, tu vois, ce n'est pas.
C'est souvent écrit Wanda, ça dépend des.
Il a été stylisé en japonais en Wanda, il me semble, mais les versions.
Parce que les japonais n'ont pas de mots qui se terminent par ER, donc ils font comme ça. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que à l'origine, de toute façon, dans le jeu, on ne retrouve pas ce nom. non. Et je crois que même Fumito Ueda l'avait déjà expliqué, c'était pas, pour lui, c'était pas important, quoi. Enfin, Wonder, c'est le mec qui erre, quoi. Donc c'est,
oui, ça, voilà, c'est... Alors, ce serait Wanderer, mais Wonder, oui. c'est le verbe en soi qui veut, oui, dire errer, vagabonder. Donc, en termes de subtilité, ça, on n'est pas perdu, ça va. Ouais, si vous étiez en manque de subtilité depuis Death Stranding, hein, on est là.
Oh, ça fait des private jokes. Bon, attends, il faut qu'on explique aux gens, parce que Exer n'arrête pas de se moquer des noms de...
Non, des tweets.
Ah oui, des tweets.
C'est ces tweets de Kojima depuis qu'il y a eu le nouveau trailer de Death Stranding. Il nous fait des... En fait, il y a quelqu'un qui avait dit ça et ça m'avait paru... J'ai plus le nom en tête, mais ça me paraissait très juste. C'est le seul type, tu vois, qui peut dire des trucs qui sont aussi bidons, mais avec un aplomb tel que tu trouves ça super sérieux. Mm-hmm. Tu sais, il va te faire toute une phrase en te disant « La main, quand elle est fermée, ça veut dire le poing, tu vois, ça veut dire c'est l'agression, mais si tu l'ouvres, tu la tends vers les autres. » Et t'es là... Oui, bah moi je lisais ça aussi. Enfin, je veux dire, si c'était l'auteur de Twilight qui nous écrivait ça, tout le monde serait en train de hurler. Mais comme c'est Kojima, ça va, on n'a pas le droit de toucher.
Et du coup, il y a des persos qui ont des noms du type Die Hard Man.
Ouais, ouais.
Il y a...
Fragile.
Ouais, fragile.
Oui, mais c'est, parce que... Avant, oui, mais c'est parce que c'est des femmes, donc ça va. Ça, ouais. Ils ont le droit.
Il y a quand même certaines notes avec les femmes et Kojima. Ouais, entre fragile et Quiet, bon, il y a une certaine ligne directrice. Et à côté de ça, il y a Die Hard Man. Et je crois que ça doit être Hard Man.
Oui, mais quand on apprendra pourquoi fragile et fragile, eh ben, vous vous sentirez tous niaiseux, honteux, bouh, bouh.
Bon, et bien sûr, ce. Voilà.
Sur
alors, Wonder. Pour être plus poétique, nous avons Wonder
voilà. Et, qui doit sauver une princesse. Bon,
c'est ouais. Ça, voilà. Et qui est donc Mono, qui est donc. On connaît pas la relation qui unit les deux. Beaucoup de personnes ont balancé que c'était sa bien-aimée ou sa sœur, et en fait, rien dans le jeu te permet vraiment d'affirmer quoi que ce soit. Et,
si ce n'est qu'il tient à elle.
C'est ça, oui.
Puisqu'il l'emmène pour lui rendre la vie, c'est ça.
C'est ça, la ressusciter, il arrive dans le temple et il y a une divinité qu'on ne voit pas, c'est une espèce de lumière qui vient du plafond qui s'appelle Dolumin en japonais. Et en gros, il est venu justement, donc Wander est venu sur cette terre pour voir Dormin, parce qu'il savait qu'il était capable en fait de ramener les âmes des morts en ce monde, et donc bah voilà, il lui demande de lui faire ça, et Dormin lui dit que il n'y a pas de souci mon gars, il suffira de détruire les 16 idoles qui sont dans le temple, et pour que les idoles soient détruites, il faudra tuer des colosses qui correspondent à ces idoles, et il pourra donc rendre son âme à Mono. Il le prévient quand même qu'il y aura un lourd prix à payer, si jusque-là on s'en doutait pas, parce que quand même, en général, dans les histoires, quand ça parle de passer un pacte avec une divinité, diable, ouais. Et que ça concerne les âmes des défunts, en général, il y a tous les éléments du mauvais deal qui sont réunis, et donc il fait ça. Ensuite, le jeu commence et on va tuer les 16 colosses dans un ordre bien particulier.
Ouais.
À la fin, il y a un chaman. Alors, je dis chaman, mais il y a mec qui a des pouvoirs et un masque en bois, voilà, sur la tête. On connaît pas vraiment le monde dans lequel on vit, qui avait bien vu qu'il se passait quelque chose, puisque à chaque fois qu'on tue un colosse, il y a un vortex en fait dans le ciel qui s'ouvre.
Ah ouais.
Et donc c'est des signes que tu vois vraiment de loin, et parce que t'as une petite cutscene au milieu du jeu aussi où tu vois le chaman qui arrive avec ses cavaliers, et ils vont vers cette terre un petit peu isolée. Et donc, Aemon arrive, il comprend un petit peu ce qui se passe, il voit le corps de Mono, et ensuite, il y a donc Wander qui réapparaît, qui a des petites cornes qui commencent à apparaître, il a les yeux qui sont bleus, qui renvoient un petit peu au colosse qu'on a tué, enfin, il est plus très frais, tu vois.
Au fur et à mesure de l'aventure, il devient de plus en plus pâle, d'ailleurs,
parce qu'à chaque fois, il aspire des espèces de rayons noirs, alors sur Play 4, c'est plus joli, mais bon, à l'époque, sur Play 2, c'était vraiment des petits aplats noirs qui te rentraient
dans
le corps. Tu sentais que c'était pas cool, quoi.
Ouais, il avait la peau de plus en plus pâle, les cheveux étaient beaucoup plus noircis, il y avait des petites taches noires dans le jeu, tu pouvais constater ça, et bon, là vraiment, il a les yeux bleus, des petites cornes. Il apparaît donc, Aemon en gros lui dit il y a la petite backstory, il dit ah, c'est donc toi qui avais pris l'épée, ouais. qui a dû emmener Mono. Mono qui, j'ai oublié de le préciser, on le sait au début, on sait qu'elle a été sacrifiée parce que son destin était maudit. On n'avait pas plus d'infos dessus, vraiment, c'est un jeu qui est quand même assez léger en termes d'explication. C'est juste Wander qui disait elle a été sacrifiée parce que son destin est maudit, voilà, pas plus d'infos. Et donc Aemon, on sent qu'il représente justement l'ordre un petit peu, en tout cas qu'il a voulu sacrifier cette fille, et face auquel Wander s'est un petit peu rebellé au final. Et donc ils essaient de tuer Wander, mais qui au final se transforme en Dormin, la divinité qui a donc pris contrôle du corps de Wonder. Hein. Donc là,
il s'en sert comme une espèce de réceptacle en fait. Ça, avec toute la puissance des colosses, ça lui permet de, de s'incarner en espèce de gros démon.
C'était pas Mono qui l'avait ressuscité, c'était lui-même.
Peut-être. On sait pas trop. Hein. C'est assez léger puisque Mono sera ressuscité. On va venir dans deux secondes. Le chaman arrive à s'enfuir. Il lance une espèce de sort en balançant l'épée qui aspire du coup Dormin dans une espèce de petit vortex. Le chaman se barre en faisant péter le pont et en laissant l'endroit encore plus isolé qu'il n'était parce qu'il était accessible que par un pont. Et ensuite donc Mono se réveille. Il y a aussi Agro qui revient, qu'on avait perdu en sautant d'un pont, on pensait qu'il était mort, et en fait il revient en boitant.
Le cheval.
Oui. Et ouais, le cheval, on y reviendra un petit peu plus quand on parlera.
PLS déjà.
Mais oui, moi je l'adore ce cheval.
Et ouais, mais on en parlera quand on parlera du jeu. Mono est ressuscité, elle va vers le vortex, et il y a un bébé tout fraîchement né, avec des petites cornes qui nous renvoient à celle d'Ico. Donc là encore, il n'y a pas vraiment d'explication claire, est-ce que c'est un ancêtre d'Ico, est-ce que ce sera le futur Ico, on ne sait pas forcément.
Oui, en tout cas, si vous allez sur internet et que vous regardez des vidéos YouTube, vous pourrez effectivement faire le lien. Effectivement, ce serait un ancêtre de la tribu.
En gros, l'idée,
Ico,
c'est de dire que ça se passerait tout dans un monde un peu identique à des époques.
C'est la préquelle.
Voilà, ouais, ça se passe à des époques différentes. En tout cas, le lien, il est évident, puisque du coup, le perso de Ico avait des petites cornes. On retrouvait déjà cette idée d'un peuple qui isolait certains de ses membres à cause d'une malédiction. Donc, il y a quand même beaucoup de liens. On retrouve comme ça des thèmes un peu forts d'un jeu à l'autre, et donc forcément le lien il est assez évident. Lequel il est, on le saura probablement jamais, parce que ça fait partie aussi du trip de pas le dire, mais de toute façon l'histoire c'est beaucoup nous qui allons nous l'imaginer au fur et à mesure du jeu en fait.
Et du coup on pouvait dire que le pitch c'était un petit peu le héros qui allait sauver la princesse en allant tuer les colosses, mais on a ce petit twist de fin qui fait très tragédie grecque, hein. D'ailleurs il y a cette notion de Mono qui a été sacrifiée parce que son destin était maudit, mais au final peut-être que le fait qu'elle ait été sacrifiée, ça a mené à ces situations-là, et on est face peut-être à une prophétie autoréalisatrice, un truc qu'on retrouve très souvent dans les drames et les tragédies. Mmh. Et ça, ça paraît assez basique, hein, quand on lit. D'ailleurs, ça renvoie justement, comme on disait, à des choses qui sont millénaires. Mais dans le jeu vidéo, c'est un petit twist qui nous renvoie à des émotions un petit peu plus amères que ce qu'on avait l'habitude de voir.
Oui, et puis c'est surtout que cette course un peu maudite pour la sauver, on va beaucoup la ressentir en jeu dans notre façon d'affronter les colosses. Mais bon, ça, on y reviendra un petit peu après. On va pouvoir vraiment, peut-être maintenant, parler vraiment du jeu concrètement. Pourquoi c'est un jeu qui est... qui était déjà unique finalement en 2006. Moi je vois deux grosses pistes en fait pour en parler. C'est d'abord ce monde en fait un petit peu désertique, cette espèce de terre en fait maudite qui a été abandonnée. En fait c'était un ancien peuple qui justement vénérait ce démon là Dormin, et du coup en fait ils l'ont coupé, ils ont arrêté de vénérer, du coup il n'y a plus personne qui vit dans ces terres.
Oui, on comprend qu'en fait alors on ne sait pas si c'est le chaman lui-même ou ses ancêtres sa tribu ou quoi, ils ont divisé en fait, Dormin en 16 entités qui sont en fait les colosses, et du coup quand Wonder les tue, les aspire, il réunit en fait tout ce qui constituait Dormin.
Oui, c'est des espèces de sceaux entre guillemets pour qui sont les gardiens finalement des 16 morceaux de Dormin. Moi j'avais découvert en 2012 le jeu, et à l'époque je m'étais fait une réflexion, je me suis dit ah tiens, c'est une espèce de proto open world en fait, et je pense que je pouvais pas avoir plus tort que ça, parce que d'abord dans sa structure c'est pas vraiment un open world, hein, c'est il y a un espèce pas de hub central, mais il y a vraiment une place au milieu qui est l'espèce de temple, et ensuite t'as des espèces de bras qui vont partir pour aller t'emmener vers les différentes zones des colosses. Comme je le disais, c'est un jeu qui est dans sa structure très fonctionnelle, mais là où je trouve qu'il s'oppose particulièrement aux open world tels qu'on peut les concevoir aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis la génération PS3, c'est que c'est un jeu qui est complètement dans l'opposé de ce qu'ils sont dans leur côté espèce de parc d'attractions géant. C'est-à-dire que dans les open world actuels, c'est constamment tous les 20-30 mètres, il faut qu'il y ait un petit quelque chose que tu aies pour te donner envie de t'amuser. Ça va être, je sais pas, les camps à vider, ça va être les tours à escalader, ça va être les petits trésors à trouver, ça va être aussi ces petits événements aléatoires. Vous pouvez penser par exemple à Red Dead Redemption, premier du nom, qui avait, vous savez, sur le côté de la route, t'avais une bonne femme qui disait « Oh, please help me !» et tu allais l'aider, en fait, elle te détroussait, elle te piquait ta thune. Donc t'as toutes ces petites choses-là comme dans les open world modernes, pardon. Et en fait, dans Shadow of the Colossus, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans le vide le plus total, mais c'est un vide qui est intentionnel, et on salue les oiseaux qui font du bruit derrière moi, mais c'est un vide vraiment intentionnel pour te mettre dans une espèce de... comment dire, pas d'état méditatif, mais dans une espèce de calme, en fait, à chaque fois que tu vas te diriger vers les colosses, tu chevauches donc sur ton cheval aggro, et t'as un truc déjà très unique, je trouve, qui se passe dans le jeu, avec ces espèces de phases, en fait, bah, vraiment d'errance, et c'est même pas de l'exploration, quoi, parce que t'as un but, tu te guides donc avec cette espèce d'épée qui fait une espèce de faisceau lumineux qui t'oriente comme ça. En plus, c'est diégétique, c'est complètement dans le jeu. Et ouais, je trouve qu'il y avait déjà quelque chose de... Ça m'avait beaucoup surpris, en fait, déjà à l'époque, parce que... Bah c'est ce vide, mais c'est pas un vide qui est mauvais, c'est-à-dire que c'est l'ennui, mais ça te met dans une espèce d'état de calme qui est très bah qui est en opposition avec les colosses, mais qui, je trouve, arrive à bien structurer le rythme du jeu.
Et c'est un vide qui est vraiment entretenu, tu vois, par le manque de musique notamment, où tu vas vraiment avoir le bruit du vent, le bruit de tes pas, donc il y a, en fait, il y a pas de bruit, mais il y a vraiment du sound design, tu vois.
Ouais,
donc, il y a vraiment du bruit qui a été pensé, mais c'est le bruit du calme, en fait, qui est vraiment quelque chose qui a été complètement pensé, qui a une vraie intention, et je pourrais comprendre que même des personnes te disent, tu vois, qu'elles elles l'ont ressenti comme un open world, parce que tu regardes des témoignages de personnes de l'époque, elles ont aimé juste se balader, en fait, dans Shadow of the Colossus, et elles ont quand même aimé un peu explorer, même si c'est pas le jeu qui a dit, attention, il y aura peut-être des secrets, même si t'as des petits collectibles, des petites...
Oui, t'as des petites choses, mais voilà, c'est vraiment minime par rapport à tout ce que tu trouves.
T'as pas de vraies surprises, de vrais easter eggs, si t'en as un, en fait, t'as le jardin caché à la fin du jeu, mais pas au sens de l'open world moderne, et tu peux vraiment, bah, en fait, c'est ce que tu fais dans le jeu, tu erres, tu vois, le perso s'appelle Wanders, et c'est pas pour rien, tu peux vraiment juste te balader, voir un peu les falaises, voir le désert, voir les forêts, et rien d'autre.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu ressens l'idée que c'est un open world dans la mesure où on n'a pas de limite, tu vois, on n'a pas cette sensation d'avoir vraiment une limitation du « t'as pas le bon niveau, tu ne devrais pas aller là ». Vu qu'il n'y a aucun autre ennemi que les colosses, tu peux te balader. Un endroit où tu peux aller, si tu peux pas y aller, c'est parce qu'il y a une frontière naturelle, et donc, dans ton esprit, tu te dis juste « bon, bah, il y a une montagne, je ne peux pas aller de l'autre côté ». Toi, ça va pas te choquer, forcément. Tu vas revisiter certains endroits où tu vas recombattre d'autres colosses, etc., dans les mêmes arènes, mais tu vas, vu qu'à chaque fois, tu vas suivre bien diligemment ta petite épée, tu vas pas chercher, en fait, vraiment à te dire est-ce qu'il y a des limites ou quoi, et comme tout ce que tu vois, tu vas pouvoir y aller à un moment donné, on a vraiment ce sentiment d'être dans un open world. Disons que c'est un, tu vois, on parle souvent de sandbox, de bac à sable dans les jeux vidéo, là, ça serait un bac à sable sans sable, tu vois, c'est vraiment genre, il n'y a rien, et c'est l'inverse, c'est juste un bac et tu peux te balader à l'intérieur. Mais comme tout a été pensé, que ça soit au niveau esthétique, au niveau, comme tu disais, sound design, on va avoir les pas du cheval qu'on va sentir, on va entendre de temps en temps des petits bruits quand on va arriver dans une forêt ou quoi, on va simplement profiter de la balade, et comme la mise en scène avec les colosses est particulièrement travaillée, le contraste entre les deux fonctionne en permanence, c'est vraiment un délire un peu chaud-froid, qui fait qu'entre chaque combat, tu vas avoir ces petits moments de calme, dans lesquels tu vas peut-être réfléchir à tes actes, réfléchir à ce que tu es en train de faire, enfin, c'est vraiment des moments où tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce jeu vidéo, et en fait juste les petites interactions qui apparaissent et qui sont pourtant pas très intéressantes, tu vois, tu vas chercher un lézard ou un truc ou une pomme, mais et ça paraît fascinant alors qu'en fait c'est pas des vraies actions, il n'y a pas des vraies choses. Ça t'a moins marqué, mais
ça m'a fait rire quand
il faut le sortir. Parce que c'était dans le contexte, tu vois, quand j'y jouais à l'époque, moi c'est une amie qui m'en avait parlé, qui est ultra méga fan de ce jeu et qui m'avait convaincu de l'essayer, et c'est vrai que tu te dis mais on faisait pas ça dans les jeux vidéo à l'époque, quoi. C'est ce moment vraiment de vide, on regarde le paysage, on se balade, des moments comme ça de contemplation, c'est très agréable en fait. Moi j'aime beaucoup ces petits moments-là, je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé No Man's Sky, mais voilà.
Il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est comme tu disais, tout est accessible, et de l'autre, tu as l'épée qui t'indique le chemin à suivre, ce qui veut dire que tu as la liberté de ne pas aller là où tu devrais aller. Et le simple fait de se dire, en fait, je devrais aller par là, mais en fait, je fais demi-tour et je vais aller dans le désert, et rien que ça, je pense qu'à l'époque, ça pouvait quand même être quelque chose qui se distingue beaucoup de jeux qui étaient assez linéaires.
Sachant que tu ne peux pas aller, par contre, aller voir un autre colosse que celui qui t'est indiqué à ce moment-là, puisqu'ils sont vraiment... L'ordre est précis d'abord. Effectivement, ils sont un petit peu cachés. Et d'ailleurs, je crois, j'avais re-regardé un petit peu la carte du jeu, et effectivement, au fur et à mesure que le jeu avance, tu vas de plus en plus loin, en fait. Le premier est très proche du temple, et puis au fur et à mesure, tu vas, de manière un peu concentrique, tu vas aller de plus en plus loin.
Parce que le temple, quand t'as la carte, le temple, il est situé un peu au milieu, en fait, quasiment au milieu, et donc toi tu vas te balader vraiment comme une étoile, voir les différents points cardinaux de ce continent, enfin de ce pays là, et à chaque fois tu vas découvrir un nouvel endroit, un nouveau truc. Il n'y a pas de côté Zelda ou Metroid où on va pas gagner un grappin ou une bombe ou je sais pas quoi qui va débloquer l'accès, c'est juste que le jeu va nous dire il faut que tu ailles dans cette direction, et en suivant précisément le rayon de l'épée, on va trouver en fait les chemins qui nous amènent aux différents endroits.
Et tous ces moments aussi, c'est des moments que tu passes avec ton cheval, du coup, avec Aggro, qui a beaucoup marqué les joueurs à l'époque, qui, même à l'époque de la PS2, où techniquement c'était un petit peu limite, bénéficiait quand même d'une animation qui était vraiment très poussée. J'avais vu une vidéo d'un mec de Extra Credit qui est un animateur, qui se penchait un petit peu sur tout ça. Et il y avait aussi toute cette idée derrière que tu ne contrôlais pas Aggro quand tu étais dessus, mais tu contrôlais Wander, qui lui contrôle Aggro pour donner du coup une personnalité au cheval, qui en plus peut ne pas venir au moment où tu l'appelles, dans des limites quand même raisonnables, parce que faut pas déconner, parfois t'as besoin de lui. Mais tous ces moments d'errance, comme ils sont faits avec Aggro, ça va renforcer aussi vraiment la relation que tu as avec lui et ce qui se passe à la fin, le dénouement où il va tomber du pont et où Exerve a séché sa deuxième larme dans sa vie, la première étant Artax de l'histoire sans fin.
Et ben pourquoi pas. Mais de toute façon, oui, les liens, ils sont là aussi, hein, avec l'histoire sans fin, forcément. Mais. Non, moi ce que j'ai trouvé intéressant, alors dans le bouquin, ce qu'il disait Damien Mécheret, c'est qu'en gros ils avaient engagé vraiment toute une équipe d'animateurs uniquement. Tu vois, ils avaient passé sur l'équipe de Shadow of the Colossus, c'était peut-être une quarantaine de personnes, il y en avait un quart qui était uniquement consacré à l'animation d'Aggro. Ils ont d'ailleurs pas mal réduit sa liberté et on va dire son autonomie, puisque le cheval, à un moment, il voulait vraiment que ça soit un vrai cheval. On sentait déjà un peu les prémices de The Last Guardian avec cette idée de. De toute façon, je veux dire, c'est un truc qui traverse toute l'œuvre de Ueda, que ça soit Ico. Shadow ou The Last Guardian, on sent qu'il a envie de nous mettre avec des personnages un peu autonomes, un peu humains, un peu vivants, un peu indépendants de la volonté du joueur. Et donc Aggro, ils ont vraiment travaillé ces animations. Et c'est vrai que moi, jusqu'à ce que je vois peut-être MGS5 ou Red Dead, j'avais pas encore vu comme ça un délié d'un grand galop de cheval aussi impressionnant, où tu sens vraiment le poids du cheval, tu vas le sens à chaque fois que tu vas changer de direction. C'est particulièrement bien fait comment il va déplacer justement lui-même son poids. Et dans ma mémoire, c'est ça qui est rigolo, c'est que le jeu, en 2006, il était moche, hein, je veux dire, voilà, c'était avec les contraintes techniques de l'époque, mais dans ma tête, tu vois, je le voyais, les muscles qui bougeaient, etc. C'était tellement, il y avait tu le sentais, en fait, t'avais, comme c'est très bien ressenti à l'écran, t'avais cette idée que, effectivement, le cheval, il était vraiment vivant, en fait.
Non, et puis, de toute façon, en plus, dans le monde tel qu'il est construit, t'as vraiment cette question d'échelle, où tu te sens vraiment tout petit au milieu de ces grandes falaises. Alors, ça va être encore pire, évidemment, avec les colosses après, mais c'est vrai que t'avais, moi aussi, alors j'ai pas joué sur PS2, mais j'avais aussi cette sensation qui était vraiment, ouais, il y avait pas ce vertige, mais t'as cette espèce de solitude et ton seul le seul être vivant qui est avec toi, c'est ton cheval. Donc tu as vraiment l'impression de parcourir ces plaines, de contempler cet endroit et d'avoir ce seul lien avec une créature qui n'est pas qui est pas seulement le cheval, tu vois, comme dans MGS5 où vraiment il t'obéit au doigt et à l'œil et tic tic ça répond,
et il apparaît, hop, c'est ça, c'est Ablette, c'est elle. Voilà, il se téléporte à un endroit. Donc, et boum, t'es là.
Oui, il a vraiment cette personnalité qui arrive à exister au fur et à mesure que tu parcours le monde avec lui, et jusqu'à ce qu'il nous emmène donc à ces fameux colosses, des colosses donc qui font on dit souvent que Shadow of the Colossus c'est un boss rush, parce que c'est vrai, on combat 16 grands ennemis, mais en fait quand on regarde bien dans le jeu, il fonctionne beaucoup plus comme des niveaux. C'est-à-dire que chaque colosse a vraiment un niveau de complexité qui va s'accentuer au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier colosse, en fait, il est extrêmement basique. Il y a un endroit pour commencer à lui grimper dessus et un endroit pour lui faire des dégâts. Et c'est vraiment un tuto, le premier colosse. Il fonctionne vraiment comme un niveau tuto. Et puis, au fur et à mesure, le jeu va nous initier à de nouvelles problématiques, en fait, vis-à-vis des colosses. Le deuxième, il va falloir trouver comment pouvoir commencer à grimper sur lui, puisque en fait il lève les pattes et il faut lui tirer juste en dessous des pattes pour qu'il flanche un petit peu sur le côté,
ce qui te fait utiliser ton arc du coup,
ce qui te fait effectivement, c'est la première fois que tu utilises ton arc. Donc au fur et à mesure comme ça, le jeu va apporter des petites nouvelles idées, et moi je trouve que déjà il y a une grande réussite, c'est que chaque colosse est quand même assez unique. Ouais. Alors il y a quand même une petite, il y a deux fois les tout petits colosses là qui ressemblent un peu à des
taureaux
clébards,
les taureaux tigres.
Bah pour moi, comparé à la taille des autres colosses, ce sont des chiens, n'est-ce pas?
Ouais, bon, d'accord.
Oui, d'accord, en termes de taille,
non,
ce
non,
que
non,
tu veux dire.
Et du coup, ouais, c'est un peu deux fois le même, mais par contre, l'environnement est complètement différent, et du coup, le puzzle pour arriver à s'en débarrasser, puisque tous les colosses sont partagés vraiment entre une partie puzzle, c'est-à-dire comment j'arrive à grimper sur eux, où est leur point faible, comment je peux atteindre ce point faible, et puis la deuxième partie, qui est un peu plus de l'exécution, entre guillemets, même si pour moi, on tient quand même beaucoup plus du puzzle, qui est la gestion de cette endurance, puisque... tout le cœur du jeu va être de s'agripper aux colosses, d'arriver à leur grimper dessus, de bien se tenir dessus quand ils vont se secouer, parce que forcément on se débarrasse un petit peu des moustiques, et après d'arriver à placer les coups. Il faut charger un petit peu le bras, je crois, pour frapper.
C'est des moments qui sont particulièrement bien mis en scène, parce que tu vas voir la caméra qui va tout doucement changer son angle de vue, et donc du coup tu vas vraiment ressentir, et à chaque fois que tu vas relâcher, t'as un petit ralenti, même en termes de feedback. Alors évidemment on sait pas si c'était des ralentis à cause de la console qui était en PLS ou non mais blague à part,
je crois qu'il y a toujours les ralentis sur PS3 et je pense
que
c'est toujours
mais c'est parce que ça rend tellement bien, en fait tu ressens énormément l'impact, tu vois. Je pense que le premier Colosse, mine de rien, c'est un de ceux dont on se souvient le plus, parce qu'en plus il te regarde, il est en train de faire sa vie, et toi t'étais juste en train de grimper au moment où tu le vois, donc c'est le premier contact que tu as avec un ennemi, et là tu te rends compte qu'il fait déjà 15 fois ta taille.
Oui, c'est vraiment grand. Là, en regardant des images, j'ai été de nouveau surpris. En fait, je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont vraiment grands quand même.
Ah bah ouais.
Et en plus, le tout premier colosse, il y a un petit détail, chose qu'on revoit pas avec les autres, c'est que tu as des oiseaux en fait qui volent au-dessus de lui, et quand tu montes sur lui, les oiseaux ils te frôlent, tu vois. Donc tu as vraiment cette impression d'être en haut d'un arbre,
sur un monument quoi.
Ils ont polish l'impression quand même du premier.
Ils l'ont beaucoup travaillé, et je pense que c'est important parce que sans ça, tu aurais pas tout de suite compris les intentions, et ça te donne vraiment, quand tu découvrais le jeu et que tu ne savais pas encore à quoi t'attendre, ça te plaçait dans un cadre qui n'existait nulle part ailleurs. Parce que déjà, grimper sur un ennemi, c'était une idée qui était encore très novatrice pour l'époque.
Ouais,
on l'a revu depuis, mais c'est quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Et surtout, l'idée de dire que le niveau, c'était le boss. La première fois que tu vois qu'en fait, il a un truc, tu vois, on voit, il a un morceau d'épaule ou une épaulière, et toi, tu te rends compte que ça pourrait être à ton échelle, ça peut devenir un balcon, et tu vas pouvoir t'y accrocher et sauter sur un autre balcon qui est en fait, je sais pas, la protection de son coude ou on sait rien. C'était vraiment une idée qui était assez révolutionnaire pour l'époque et qui va déterminer, comme tu dis, toute cette évolution, parce que au début, ils en avaient prévu, je crois, une quarantaine de colosses, donc ils ont été ils ont bien revu les choses à la baisse. Ils ont bossé pendant 3 ans et demi dessus, donc ils ont mélangé comme ça des concepts, mais chaque colosse, l'idée c'était ça, d'avoir une idée, un truc. C'est pas des affrontements, on n'est pas, tu vois, dans des arènes de boss à la Dark Souls, c'est des combats, c'est plus de la compréhension. Une fois que t'as compris la situation, il faut grimper, il faut gérer un peu son endurance, tu dopes avec ton épée aux bons endroits et ça y est, c'est plié. C'est pas en soi difficile, par contre c'est extrêmement épique. Chaque affrontement a un souffle épique que tu retrouves dans très peu de jeux.
Et étant donné qu'ils sont vraiment différents les uns des autres, notamment les colosses qui volent ou celui qui est sous l'eau, où là t'as vraiment des sensations qui sont uniques. La première fois que tu te bats contre Avion, qui est l'espèce d'oiseau qui vole, t'as vraiment tout ce vent, tu vois, qui souffle, toi t'essaies de t'accrocher pendant qu'il
bat des ailes. C'est incroyable ce moment-là, c'est des moments qui sont extrêmement forts. Moi je pense celui qui m'a le plus marqué, c'est Phalanx, donc celui qui vole dans le désert, et tu le vois, tu sais, il a des espèces d'écailles, comme pour les requins, des ailerons, et en fait tu vois, ça frotte dans le sable, là quand je l'avais revu sur Play 4, mais j'avais des frissons, quoi. C'était vraiment extrêmement impressionnant, et toi tu grimpes dessus, même celui sous la flotte, quand je l'avais refait, de me rappeler comme ça à quel point tu dois rester le plus longtemps possible sous l'eau, et c'est un truc qu'on disait dans la préparation, c'est que c'est génial, c'est que tu as un bouton pour t'appuyer, il n'y a pas de notion d'appui plus fort et tu te retiens plus fort, mais toi t'es tellement accroché à ton personnage que tu t'es tellement en immersion avec l'univers que tu vas naturellement, je pense qu'on a tous niqué des boutons manette Play 2 ou Play 3 ou Play 4 avec ça, parce que tu veux t'accrocher, tu veux ne pas lâcher, tu te dis que si toi tu relâches, c'est foutu le perso aussi, quoi.
Oui, surtout quand t'as justement l'avion là qui vole, où t'es complètement en l'air, je sais pas s'il fait des loopings, mais il y a des moments où vraiment tu...
Ouais, s'il tourne un main sur lui, il fait des tours.
Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe, tu vois, parce que t'appuies sur ton bouton et tu t'y tiens comme à la, je sais pas, à la prunelle de tes yeux, tu t'accroches à ce truc-là, parce que, encore une fois, c'est pas difficile, c'est-à-dire que c'est pas genre, c'est pas Sekiro, genre, il va falloir appuyer au bon moment, et tu prends le coup sur la tronche, sinon, bam, c'est la mort.
Et tu perds
c'est
pas beaucoup de vie, en plus.
Tu perds pas beaucoup de vie, le jeu n'est pas punitif. Mais par contre, en fait, grâce à cette mise en scène et à l'échelle surtout des colosses, t'as envie vraiment de te tenir, parce que tu sens la force qui t'aspire, et cette espèce de truc vraiment qui est vraiment mille fois plus fort que toi, et cette espèce de grande puissance en fait que t'essaies de dompter, et il y a quelque chose d'incroyable là-dedans, quoi.
Du coup, il y a la mise en scène, il y a l'arrivée du colosse, enfin tu vois, c'est vraiment à chaque fois tu peux découper chaque séquence en petits moments très particuliers, et bien sûr il y a la musique qui va rajouter, parce que comme t'as jamais de musique, l'idée d'avoir pas de musique quand tu explores et en mettre quand tu fais un combat, ça va de suite donner une tonalité unique à chacun des combats, et te mettre vraiment dans un mood de là tu es en train de faire le truc important du jeu, donc il faut que tu restes concentré. concentrer. Et ça, bah, ça marche vraiment très très bien. Et il n'y a pas tant de jeux qui ont repris cette idée-là plus tard. Alors évidemment, je vais reparler de Dark Souls parce que, ben, on le redira, mais Miyazaki, il a toujours dit que c'était grâce à Ico qu'il s'était mis à faire du jeu vidéo. Mais le fait qu'il n'y ait pas de musique dans les Souls quand tu explores et qu'il n'y en ait que pendant les boss, je pense qu'on peut très clairement dire que ça vient de Shadow of the Colossus. Mmh,
mmh. Et tu parlais de la mécanique où on s'accroche. Ça, c'est un truc qui est hérité d'Ico, a priori, où tu avais aussi le bouton pour tenir la main de
ouais,
Yorda.
Ouais.
Et ce qui est cool aussi dans Shadow of the Colossus, c'est que bah, cette mécanique accroche, elle va très bien avec la fourrure en fait qu'ils ont mis sur, ouais, sur les colosses, quelque chose qu'ils ont beaucoup travaillé. T'avais l'épisode de post-process qui analysait ça un petit peu en détail, et à l'époque le rendu était quand même vraiment impressionnant, où ils arrivaient à donner l'illusion en fait de la densité en fonçant un petit peu la base et en superposant en fait différentes textures, différentes, ouais, couches de fourrure. Celle du dessus pouvait être un petit peu plus claire, donc t'avais l'impression que tu pouvais vraiment, tu sentais la fourrure, tu vois, foncer au fond et clair ouais, en haut. Et je pense que tu demandes à des gens qui n'ont pas rejoué aux versions récentes et juste tu leur demandes leur souvenir, il y a moyen qu'ils imaginent la fourrure en train de bouger, quelque chose comme ça, alors que évidemment tu regardes les images, c'est complètement statique, hein, y a pas un pet qui bouge. Et on voit que ça a été beaucoup bossé aussi sur la version PS4, parce que là la fourrure elle est vraiment, tu vois, elle, ouais, est vraiment dynamique, elle bouge avec le vent, elle bouge en fonction des mouvements qu'il fait, et c'est vraiment quelque chose, bah c'est le principe de l'affordance en fait. Quand tu vois la fourrure, tu sais direct que tu peux t'y accrocher, et le jeu a pas besoin de t'expliquer plus que ça. C'est encore quelque chose de diégétique où, ouais, tu vois la fourrure, tu sais que tu peux t'y accrocher, et c'est complètement cohérent.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire effectivement, parce que t'as les colosses, comme tu le disais, ils sont vraiment designés avec un mélange de pierres en fait, qui vont être ces espèces de balcons, ces morceaux de bâtiments presque, on dirait, puisque c'est, oui, c'est un peu des bâtiments vivants, tu vois, dans l'explication du jeu, c'est voilà, c'est une partie de l'âme de Dormin qui s'est mélangée un peu avec l'environnement et qui a donné naissance à ces créatures. Donc ils ont des espèces de traces de civilisation sur eux-mêmes, et ouais, comme tu le dis, je trouve que c'est vraiment, il y a une vraie intelligence en fait dans le design de ces espèces de géants, parce que t'as ce côté fourrure bâtiment qui te permet vraiment à toi en tant que joueur d'être vraiment dans la lisibilité et de te dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans que le jeu n'ait besoin de te donner d'indices ou de choses comme ça, même si je crois que quand tu galères un petit peu, il y a la, ouais, voix de Dormin qui t'aide un petit peu.
Quand tu galères, pas hyper longtemps non plus, hein, mais ouais, t'as Dormin qui te donne des petits indices quand même sur ce que tu vas faire.
Mais disons que c'est très... j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est très minimaliste dans la façon de t'indiquer ce que tu dois faire. Enfin, dans beaucoup de jeux, tu vas avoir, je sais pas, un gros point rouge qui anime, ou je sais pas, tu vas avoir beaucoup plus de, je sais pas, dans The Last of Us, ils mettent du jaune pour vraiment te guider tout le temps. Là, c'est vraiment juste les poils, et ça arrive à vraiment être très cohérent, ce qui fait que tu n'as pas l'impression d'être face à une espèce de boss jeu vidéo, mais vraiment une créature en fait qui existe et qui a une cohérence par rapport à son environnement, et en plus elle est fonctionnelle par rapport à ce que tu dois faire.
Et c'est là que c'est particulièrement impressionnant comme travail, parce que comme tu le dis, on n'a pas d'autre explication. En fait, les monstres sont soit constitués de pierres, soit constitués de fourrure, et donc du coup, toi, tu n'as pas vraiment de complexité à comprendre ce que tu dois faire. Et le premier ennemi, si vous vous souvenez bien, en fait, tu comprends que tu dois lui grimper sur la tête, parce que justement, le faisceau de l'épée pointe sur sa tête, et pas une autre partie de son corps. Et dès que tu sors après ton épée, tu peux voir ces énormes runes bleues apparaître, et tu te dis, bon, bah, s'il y a un aussi gros truc, je dois pouvoir y aller et aller donner des coups de poing, enfin des coups d'épée dedans. Mais il n'y a pas un moment où c'est genre un tuto qui te dit appuie sur le bouton pour t'accrocher, etc. Tu comprends très rapidement que tu dois sauter, et naturellement tu vas te dire bon bah il faut que j'aille sur la tête, qu'est-ce que je peux faire. Tu regardes autour de toi, tu vois juste de la montagne, bon bah je vais pas escalader, je vais me faire tuer, bah je vais grimper sur lui. Et tu le comprends de manière si naturelle qu'en fait on s'est pas rendu compte qu'ils nous ont expliqué quelque chose avec aucun mot et simplement un peu de visuel. Et surtout à l'époque avec la version Play 2, quand tu te remets dans le contexte, que tu regardes ça aujourd'hui, c'est vrai que les indications à te donner à l'écran étaient tellement minimales, parce qu'il y avait du flou, il y avait pas mal de choses, t'avais juste voilà, l'écran qui faisait bien apparaître le colosse, et c'est tout quoi.
Ouais, et puis même sur les os, tu vois par exemple Phalanx, bah tu vois ces espèces de grosses poches, en fait faut tirer je crois avec l'arc pour lui vider toutes ces poches pour qu'il puisse tomber un peu au sol, que tu puisses commencer à grimper dessus. Mais en fait c'est cool parce que finalement le puzzle est dans l'analyse de la bestiole, dans son anatomie en fait. Et ça je trouve ça super intelligent, parce que t'as vraiment l'impression de pas d'être ce prédateur, c'est ce que tu deviens un petit peu au fur et à mesure du jeu, mais d'être celui qui observe, qui essaie de s'adapter un petit peu, de se dire ok, comment il se déplace, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce que moi, avec mes petites armes que j'ai, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'atteindre quoi. Et c'est pareil avec je crois que c'est le troisième, celui qui a la grosse épée là, qui tape au sol, et faut que tu grimpes justement pour l'épée
sur l'épée
pour l'atteindre. Mais en fait tu peux pas tout de suite passer, faut qu'il tape plusieurs fois pour casser une partie de son bras,
la plateforme en métal je crois,
ouais. Et il faut qu'il tape plusieurs fois, et après tu vas pouvoir passer, grimper sur sa fourrure, et c'est vrai que je trouve que c'est c'est vraiment fort parce que c'est rare les jeux qui arrivent à tout te transmettre comme ça simplement par l'animation, par l'esthétique. Moi, ça me fait penser un peu à Inside, tu vois. Je sais que, enfin, tu vois, c'est quelqu'un, Art Jensen, donc le créateur d'Inside et de Limbo. Pour lui, Ico, c'est vraiment une de ses références. Et pour moi, dans cette réussite à animer les choses, à les esthétiser pour que tu comprennes ce que tu vas faire avec et que ça soit naturel et toujours cohérent dans l'univers, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent et Inside fait partie de cela. Et pour moi, c'est hérité un peu de ces jeux-là.
Et du coup, comme on parle d'animation, c'est que non seulement il y a tout ce côté design, comme on disait, avec les boss qui vont nous initier à certaines mécaniques ou qui vont nous faire comprendre par quels endroits on va faire nos actions, le jeu aussi va nous faire passer vraiment un message, ou en tout cas des émotions, par plein d'autres choses, notamment, donc, je disais, l'animation. Tu vois, les colosses, on connaît pas vraiment en tant que ça leur nature ou même leur essence. Est-ce que c'est des animaux? Est-ce qu'ils sont un petit peu divins? Est-ce qu'ils ont été fabriqués par des hommes? On sait pas vraiment, mais au fur et à mesure, on commence vraiment à questionner nos actes, en fait, à se demander ce que sont vraiment ces choses qu'on est en train de tuer depuis le début. Et ça, donc, ça passe. Donc, les animations, t'as le boss dont tu parlais, celui avec l'épée qui frappe sur le sol. Déjà, son visage, il est un petit peu enfantin. Et t'as des trucs très humains, du type, ou au moins animaux, où quand tu vas monter sur leur tête, ils secouent la tête.
Oui.
C'est quelque chose qui est très. T'as un petit lien qui se crée, tu vois, une petite empathie. Ou sinon, le tout premier boss, il va passer devant toi. Sans te remarquer, et du coup en fait tu assises vraiment un peu à une scène de son quotidien, de son intimité, et tu te rends bien compte que c'est toi qui arrives dans cette intimité, dans ce quotidien. Il était en train de marcher, il t'a pas remarqué, il s'en foutait de toi, et c'est toi qui vas arriver pour lui défoncer la tête.
C'est vraiment un changement de rapport par rapport à ce qu'on... par rapport à ce qu'on connaît d'habitude dans le jeu vidéo, où vraiment le boss, c'est le rempart, c'est le truc qui nous veut du mal, qui nous empêche d'accomplir notre truc. C'est un peu vrai aussi dans Shadow of the Colossus, mais par contre, c'est nous qui allons vraiment les perturber, et je pense que c'est... Moi, j'ai compris ça avec Phalanx, en fait, où lui, vraiment, il ne t'attaque pas. C'est-à-dire que c'est le seul boss... Enfin, je crois que c'est un des seuls colosses qui ne peut pas te faire de dégâts, si ce n'est des dégâts de chute quand tu tombes, quoi. Il est vraiment aucune... Il a aucune hostilité envers toi. Et tu sais, c'est un espèce de dragon un peu japonais, c'est vraiment un serpent aérien comme ça, et il y a quelque chose vraiment majestueux dans la vie de cette créature. Et toi, tout ce que tu vas faire pour le mettre à terre, et tu vas le taper, tu sais, il vraiment s'écrase. Voilà, c'est ça, ouais. Tu l'écrases au sol. La dernière fois, il chute vraiment comme un Boeing qui va se crasher. Et ouais, là, tu te rends compte vraiment que... t'es en train de perturber quelque chose, tu vois, que t'es en train de casser une vie qui était plus ou moins paisible, quoi. Et du coup, tu te dis, mais attends, les autres, est-ce que vraiment ils m'attaquaient, ou est-ce que c'est moi qui étais simplement sur leur terre-terre et qui se défendait, tu vois.
Ce qui marcherait bien, c'est que comme on est seul dans cet univers-là, et qu'il n'y a que Aggro et nous-mêmes, on n'a pas d'autres êtres humains qui peuvent un peu dédouaner et un petit peu nous déresponsabiliser. Parce que tu serais dans un Zelda ou quoi que ce soit, t'aurais les Gorons qui arriveraient en disant « Ah oui, mais tel machin, il va nous détruire notre forge, ou il va casser notre volcan, ou j'en sais rien. » Mais là, non, il n'y a personne. Donc en gros, toi, quand tu commences à te balader, tous ces petits moments comme ça de contemplation, au bout d'un moment, ça devient autre chose. Ça devient des moments où tu te dis « Mais c'est tellement beau, cet endroit-là. » Tu vois, c'est toi qui le perds. Ils étaient peinards avant que tu sois là, et il n'y avait personne, il n'y avait rien, il y avait la nature la plus simple possible, et toi tu viens foutre le bordel au milieu de ça. Et vraiment, sans même te le donner, tu commences à toi te sentir un peu plus coupable, parce que dès la première fois que tu vas tuer un ennemi, tu vas avoir cet énorme rayon noir qui va se jeter dans le corps, tu vas sentir toute la souffrance du personnage, que tu vois bien qu'il est en train de passer un sale quart d'heure après avoir tué un boss. Donc déjà, petit à petit, tu vois, ils vont semer la graine du doute, comme on dit. Et c'est vrai que moi, j'avais souvenir de ces moments où tu te baladais dans les décors, où tu te dis, mais c'est tellement beau, tu sais, ça fait un peu jardin d'Éden, quoi. Il n'y a pas aucune trace de l'humanité, il n'y a pas du tout de civilisation, il n'y a rien, il y a juste des petites fleurs, tu vas croiser peut-être un petit animal, tu vas peut-être entendre un truc. Tu te dis, et toi, tu arrives et tu perturbes cet équilibre-là avec ton épée et tes volontés qui est finalement très égoïste, parce que tu vas tuer 16 personnes pour en sauver une seule. Tu peux commencer à te poser des questions, quoi.
Cette personne, d'ailleurs, à chaque fois que tu bats un colosse, tu réapparais en face de l'autel, comme si c'était pour te rappeler à chaque fois, en fait, pourquoi tu faisais ça. Et en fait, les deux constantes, c'est un peu ça, c'est Mono qui est sur son autel, et Dormin qui va te donner l'indication où est le prochain, tu vois. Donc c'est un peu... À chaque fois, on te rappelle un petit peu pourquoi tu fais ça, la détermination de Wander, mais c'est vraiment à toi de te poser des questions, parce que Wander, lui, il n'exprimera rien jusqu'à la fin du jeu. C'est à toi de se poser ces questions. question. Et donc, tu as tous ces petites choses, c'est vraiment à nous de les ressentir.
Et je trouve que finalement, ça traduit bien l'intelligence qu'a Ueda et surtout ce qu'il essaie de faire finalement dans son jeu vidéo. On parle souvent du design par la soustraction, c'est un petit peu ce qui caractérise son jeu vidéo, c'est-à-dire vraiment se concentrer sur quelques mécaniques et vraiment les essentialiser au plus possible. Il n'y a pas de profondeur dans les mécaniques, tu vois, comme tu disais, le saut, c'est pas le saut de Mario où plus tu appuies un petit peu, tu vas.
C'est le mauvais exemple. Non, le saut, tu l'as.
Ok, tu vois, mais sur l'épée, tu vois, tu vas pas avoir des choses comme ça. Il y a pas un système de combat. C'est pas des jeux à système en fait. Vraiment, il y a pas du tout cette profondeur là dans leur système de jeu. Et il se concentre vraiment sur des choses très uniques pour te faire ressentir ce qu'il a envie de te faire ressentir. Et c'est ce côté épique, comme tu le disais, Exer, vraiment te faire ressentir l'escalade de ces grands colosses et après la violence de tes actes avec ces coups-là.
Sachant qu'en plus, la musique, évidemment, souligne à chaque fois le moment où tu abats le dernier coup avec une musique qui est extrêmement dramatique. Dans le bouquin, Damien, il parle de Requiem. Tu vois, c'est vrai que ça te sonne un petit peu comme ça à chaque fois, comme la musique qui accompagne la mort d'un colosse. Et en plus de ça, c'est le début de cette séquence où tu sais que toi, moi des fois je courais parce que je me dis mais je veux pas me prendre ces trucs noirs, ça a l'air dégueulasse. Et après le jeu, comme tu disais, il revient à l'essence, c'est regarde, elle est toujours sur son truc, elle est toujours morte, donc tu continues, tu vas chercher, va continuer de la princesse est dans un autre château. Et donc il y a quand même une réflexion sur non seulement la violence mais finalement la structure classique des jeux vidéo où les ennemis on les tue sans jamais réfléchir à ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça en fait qu'il a essayé de faire, hein, je pense, dans Shadow of the Colossus, Ico et Last Guardian, c'est de te faire réfléchir à ce que tu fais et que finalement ces petites choses là de pixels, de polygones, de fourrures et de bâtiments là, c'est des choses aussi sensibles et c'est quelque chose de tellement rare dans le jeu vidéo de te faire réfléchir sur tes actes, parce que d'habitude l'action est toujours récompensée. Si tu tues quelqu'un, c'est bien, tu vois, ça veut dire t'as gagné, que là vous avez vaincu
là,
c'est exactement ça.
Là t'as une musique triste, tu vois le colosse qui tombe, qui s'effondre, qui meurt, tu vois, t'es obligé en fait d'assister, c'est toujours une cinématique, t'as les derniers moments en fait du colosse que toi tu viens d'abattre, c'est limite une punition à chaque fois.
Ouais, tu le ressens vraiment comme une exécution en fait. C'est vraiment un bourreau qui est là pour les exécuter. Et cette dissociation que tu peux ressentir envers le héros, elle va s'approfondir, je trouve, avec le jeu. Et c'est vrai je pense qu'on a tous des moments différents où on s'est ressenti ça. Mais je parle souvent de Phalanx, mais parce que justement, comme tu disais, t'arrives, t'es dans ce magnifique désert et tu vois un dragon qui vole comme ça et qui ne t'a rien fait. Et toi, tu l'emmerdes jusqu'à ce qu'il tombe, ensuite tu le tues et il peut rien t'arriver. Il est jamais, comme tu dis, il est jamais agressif. C'est vraiment un moment qui m'a vraiment fait switcher en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans ce jeu, quoi. Alors même si on en avait déjà beaucoup parlé de ce que c'était Shadow of the Colossus, quand tu le ressens manette en main, il se passe un truc particulier qu'on pourrait difficilement exprimer autrement que par du jeu vidéo.
Une façon d'aborder le game design, c'est pas forcément de partir des mécaniques, et c'est vraiment de se demander qu'est-ce que je veux que les joueurs ressentent au moment où ils jouent. Et quand tu prends un jeu comme Shadow of the Colossus, c'est pas un genre de jeu vidéo où il s'est pas dit je vais faire un platformer ou je vais faire un FPS, tu vois. Tu sens que c'est dit avec Wonder, je veux qu'il y ait un sentiment peut-être d'errance qui se transmet, de mélancolie, de tragédie, de drame. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose que t'avais vraiment à l'époque. Et c'est pour ça aussi, en partie, que les mécaniques sont peut-être un petit peu légères, parce que tout est mis au service de cette émotion. Si la mécanique ne sert pas l'émotion, tu dégages ou tu la simplifies, tu vas vraiment à l'essentiel. Et tu disais au tout début, 2006, c'est Gears of War à côté.
Ouais, c'est vrai que si on remet le jeu un peu dans son contexte, parce que c'est quand même important pour comprendre à quel point le jeu, je pense, il a marqué, et pourquoi il est devenu un classique. C'est parce que quand il est sorti, déjà le premier indice, parce que c'était la question qu'on s'était posée dans la préparation, hein, c'est quoi qui détermine qu'un jeu devient un classique, pourquoi on continue d'en parler 13 ans plus tard. Là, dans le cas de Shadow of the Colossus, il y a un truc qui est très prégnant, c'est que à l'époque, autour de ce jeu-là, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à Shadow of the Colossus. Et même encore aujourd'hui, il n'y a pas non plus des tonnes de jeux qui ressemblent à Shadow of the Colossus. Parce que, donc, il sort en fin 2005, c'est l'époque où sort la Xbox 360. 2006, ça va être l'année d'Oblivion, c'est l'année de God of War, c'est l'année qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De Assassin's Creed, c'est 2007.
Assassin's Creed, c'est dans 2007, Gears of War après.
On est vraiment, le jeu vidéo connaît à cette période un grand changement. La PlayStation 2 est et reste encore aujourd'hui la console la plus vendue. Ça y est, le jeu vidéo, c'est devenu un grand grand divertissement mondial de masse dans une échelle qu'on ne connaissait pas encore jusqu'à présent. La HD arrive et ça va déterminer en fait avec elle tout un tas de choses, parce que les consoles HD, pour les comprendre, il faut comprendre qu'il y a eu l'arrivée des télé plates, donc il y a eu également un changement fondamental dans notre conception de l'espace et du salon. Il y a eu du coup l'internet au débit qui commençait à se démocratiser, enfin bref, c'est tout un ensemble de technologies qui étaient en train de transformer le jeu vidéo, et le jeu vidéo a complètement changé de face, puisque bah, on le sait, après cette période-là, quand la 360 et la PS3 sont sorties, les éditeurs japonais ont eu un peu de mal à passer à la HD, il y a eu cette fameuse creux de la vague jusqu'à Demon's Souls, mais pendant quelques années, voilà, les éditeurs japonais étaient un petit peu en retrait, et au milieu de tout ça, alors que les occidentaux sont en train de vraiment montrer les muscles, on voit les prototypes de God of War, on voit des types musclés, on voit Gears of War est présenté pour la première fois le 3, enfin, je pense que tu peux pas mettre deux jeux aussi opposés que Marcus Fenix d'un côté et Wonder de l'autre,
ouais,
tu vois. Alors que les deux, ils cherchent à sauver leur bien-aimé, tu vois. Donc, non, mais on retrouve toujours évidemment des similitudes, mais le traitement de Shadow of the Colossus est tellement différent que ce que j'avais dit dans la préparation, c'est que t'avais un énorme tableau rouge et t'avais un point vert au milieu, et comme les deux couleurs sont complémentaires, tu ne vois que le point vert. Et Shadow of the Colossus, c'était ça, c'était une espèce de lumière brillante au milieu de tout le reste.
Et ouais, et puis même encore aujourd'hui, ça reste un jeu qui est assez unique. Finalement, ce qui a changé depuis la sortie de Shadow of the Colossus, pour moi, dans le paysage vraiment vidéoludique, c'est l'expression consacrée de cette émission.
C'est la tienne, hein. C'est la tienne, ça.
C'est l'arrivée des jeux indépendants, finalement, à travers lesquels on a pu retrouver des émotions similaires, ou en tout cas des intentions qui étaient beaucoup plus marquées comme ça. Mais voilà, en 2006, ça n'existait pas, en tout cas pas comme on le connaît aujourd'hui. Et puis surtout, voilà, le triple A, comme tu le dis, montre les muscles. Je pense que c'est vraiment la meilleure expression pour le qualifier, parce que c'est le début des gros open world, c'est le début de ces jeux qui ont des scopes, hein, c'est-à-dire vraiment une amplitude vraiment dans le projet qui sont gigantesques. Ça va être Red Dead Redemption, ça va être des gros gros titres comme ça.
Ouais, Modern Warfare, Call of Duty 4, ouais, c'est pas loin d'arriver.
C'est ça.
Je veux dire, à l'époque, les gros jeux que tout le monde jouait, c'était Warcraft, CS, éventuellement Dota pour les gens qui connaissaient, mais voilà, ça se limitait à ça. Alors que après, il y a eu les FPS grand spectacle qui sont arrivés, les Assassin's Creed, vraiment l'écrasement des open world qui était devenu la nouvelle norme et tout le monde en faisait non-stop. Enfin, le jeu vidéo à partir de 2006, il a complètement changé de tronche jusqu'à 2009-2010 où les jeux indépendants commencent à arriver et on va avoir du Braid, on va avoir du Fez, on va avoir des jeux du Super Meat Boy, du Limbo.
C'est relatif, tu vois, ça reste dans la sphère de l'indé, c'est pas du tout la sphère qu'on connaît. Enfin, les Call of, combien de millions
ils en sont même à le reboot, voilà. Tu vois, enfin, je veux dire, ils sont en train de se mordre la queue pour recommencer leur série. Mais même dans les AAA, il a fallu pas mal de temps avant qu'on ait des jeux qui commencent à chercher ça. Et c'est probablement arrivé du côté de Sony, parce que du coup, il y a eu des jeux comme The Last of Us, dont on a déjà parlé, etc. Un des jeux qui me paraît quand même beaucoup tapé dans Shadow of the Colossus, bah, c'est Zelda Breath of the Wild.
Ouais.
Puisque forcément, on va retrouver ces étendues un peu vides, etc. Il y a certains petits aspects qui peuvent rappeler. Mais sinon, ouais, il a pas donné naissance à un genre comme certains autres classiques.
Bah, moi, on avait parlé, on avait fait une vidéo sur Game Next Door. Je vous recommande cette chaîne YouTube que j'aime.
Incroyable, ces gens sont merveilleux.
Et non, mais je faisais le comparatif avec il y avait Resident Evil 4, et tu dis à côté, Resident Evil 4, c'est un jeu qui a donné naissance vraiment au TPS, enfin vraiment à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est Dead Space, c'est Gears of War, c'est tous des jeux qui lui doivent quelque chose et qui ont fait le visage de ce qu'était la génération PS3 360, en tout cas en partie. Alors que Shadow of the Colossus, de son côté, il est resté très unique très longtemps, en fait. Et même aujourd'hui, moi, quand tu regardes ce jeu-là, t'arrives pas vraiment à trouver vraiment des équivalents. À quel jeu nous donne des espèces de gigantesques montagnes à escalader qui sont plus ou moins des puzzles? Alors ouais, dans Breath of the Wild, effectivement, je vois une référence. J'ai eu un moment un peu Shadow of the Colossus dedans. On va pas en parler parce qu'on va pas spoiler Zelda.
En fait, à chaque fois qu'on envisageait dans un trailer un truc qui ressemblait de près ou de loin à Shadow of the Colossus, tout le monde se jetait dessus. Mais en vrai, il y en a pas eu tant que ça. Tu vois, il y avait dans Castlevania Lord of Shadow, il y a un ennemi sur lequel tu dois grimper et qui est effectivement un ennemi gigantesque qui était présenté dès le trailer. Et là, bon, la référence, c'est évident. Il y a eu le fameux jeu Prey of the God avec coucou Bethesda qui a dû changer de nom en cours de route, qui était parti dans ce délire là. Il y avait un jeu qui s'appelait Vayne.
Un peu de God of War.
T'as eu God of War 3, effectivement, ouais. Maxime le notait, la séquence avec Kronos, effectivement, c'est un colosse. Hein, je pense qu'on peut pas.
Mais ouais, c'est cette idée de transformer. Littéralement, c'est un colosse, mais c'est pas quelque chose qui a donné naissance à une nouvelle façon de faire, parce qu'en fait, contrairement à d'autres classiques, tu vois, moi je sais que parmi les grands classiques, je suis souvent Diablo, parce que forcément j'ai écrit un bouquin dessus, mais ça, il y a tellement de mécaniques et de systèmes de Diablo qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo, peu importe que ça soit des hack and slash ou pas. qu'il a donné naissance à une logique, tu vois, une philosophie de mécanique et de système. Alors que Shadow of the Colossus, il avait une approche qui était uniquement artistique, comme le disait Max, il cherchait à nous faire ressentir des choses, et donc tu peux difficilement donner naissance à un genre à partir de ça. On n'allait pas s'imaginer que du jour au lendemain, il allait y avoir tout un tas de jeux où on allait tuer des colosses, exactement. Et à la fin, on allait être triste en ayant tué les colosses. Ça marchait pas. Ça aurait pas donné, ça aurait pas pu fonctionner.
C'est un genre assez limité.
Shadow of the Colossus, Modern Warfare, épisode 28, tu tues un nouveau, cette fois-ci on tue des mechas, voilà.
Bon. Ouais, c'est vrai, comme vous le disiez, l'industrie, elle était beaucoup... En fait, c'est un tournant qui était principalement permis par la technologie, donc c'est le photoréalisme et l'open world, donc la gestion un petit peu de tout ce qui peut peupler ces mondes. Et en termes d'émotion, il n'y a pas eu de changement en fait côté occidental autant que ça. C'était juste, c'était toujours rajouter une pierre en fait aux édifices de choses qui avaient déjà été prototypées. Tu vois, les FPS à grand spectacle, ils ont une généalogie directe. Hein.
Moi, je pense que la PS3 360, c'est l'aboutissement de ce que les Occidentaux ont toujours voulu faire finalement. C'est la fidélité graphique, c'est tout ce qu'ils ont travaillé à essayer de produire dans le jeu vidéo. Et voilà, on a vu l'aboutissement.
C'est un jeu vidéo qui est toujours un petit peu dans cette espèce de crise d'adolescence par rapport au cinéma, tu vois, de toujours se sentir un peu inférieur au cinéma. Et c'est vrai que c'est toute cette période-là où on parlait effectivement des graphismes tout le temps, en permanence. On parlait que des graphismes avec un Z.
D'ailleurs, c'est bientôt le 3. Hein,
oui, les graphismes, ça va être important. Non, mais du coup, on parlait beaucoup de ça et on avait beaucoup des gens qui étaient effectivement un peu complexés par rapport au cinéma et qui voulaient du coup faire du grand spectacle et qui se disaient le divertissement de masse, c'est effectivement du grand spectacle, de l'émotion simple, l'amour, la vengeance, la colère, les trucs simples, tu vois, les trucs basiques, mais pas de subtilité, on y va, c'est Gears of War, c'est Call of, c'est Battlefield, enfin, bref, tous les jeux qu'on pouvait avoir à cette époque-là, et du coup, c'est vrai que les Japonais, ils ont été pris de court par les changements technologiques, et ça nous a rappelé, peut-être plus qu'à aucun autre moment du jeu vidéo, que le jeu vidéo, en tant que tel, est intimement lié à l'évolution technologique, et ce qui explique, je pense, pourquoi un truc comme Shadow of the Colossus, c'est pertinent de continuer à le faire évoluer avec son temps, parce que ce qu'il dit en termes de propos n'est pas lié avec de la technologie, tu vois, ça reste pertinent à tout moment, tu vois, c'est comme une fable, c'est un peu une espèce d'histoire, on parlait de tragédie grecque, on pourrait parler d'Orphée, on pourrait parler de tous ces mythes grecs où on va aller se sacrifier pour rentrer dans les enfers et sauver sa bien-aimée, mais ça c'est des choses qui sont un petit peu intemporelles, par contre, lui donner à chaque fois un petit coup de peinture pour que de nouvelles personnes puissent le découvrir, ça paraît en fait très pertinent, et du coup, je serais même pas surpris qu'il y ait d'autres remakes de Shadow of the Colossus plus tard, en fait,
ça continue de se vendre, hein, donc de toute façon, ne serait-ce que sur d'un point de vue cynique, il n'y a pas de raison d'arrêter.
Non, clairement. Et puis bon, on peut peut-être en parler quand même, il faut quand même être un petit peu honnête, c'est vrai que l'ergonomie du jeu, déjà à l'époque de la PS2, elle avait fait un petit peu grincer des dents, on va dire, parce qu'il y a... Disons que c'est un jeu qui brille par son authenticité, sa simplicité, mais par contre c'est un jeu qui, contrairement à ce que font les occidentaux qui font des jeux au contraire qui sont très ergonomiques, qui justement vont beaucoup travailler, vont faire beaucoup de playtest pour vraiment que tu sentes bien les choses, là Shadow of the Colossus, et ce sera encore vrai d'ailleurs pour The Last Guardian, on est sur une ergonomie qui est un petit peu datée. Toi Maxime, t'as pu jouer du coup là vraiment en 2019 à ce remake, et même là t'as pu sentir quand même quelques petits coups en arrière, l'expérience, c'est terrible, parce que on peut rentrer dans ce débat là, mais tu vois, c'est un classique, je pense qu'on peut le dire, Shadow of the Colossus, c'est vraiment un classique, et c'est un jeu surtout dont on a toujours parlé, j'ai eu l'impression, c'est à dire que depuis qu'il est sorti, même à la génération PS3 360, même encore celle-ci, c'est un nom qui est resté, et les gens en ont parlé, les gens ont raconté ce que c'était Shadow of the Colossus, mais quand tu le découvres aujourd'hui, c'est ce que tu dis Max, quoi, c'est tu connais le jeu et la seule chose que tu peux en découvrir, c'est un petit peu le ressenti manette en main, quoi.
C'est ça, il y a deux trucs à dire. Le premier, c'est vraiment le entre guillemets le problème en fait des classiques, c'est que les classiques ils inspirent beaucoup d'autres jeux, ou alors ils ont beaucoup fait parler d'eux, ils ont animé beaucoup de discussions et on les connaît déjà en fait, même sans les avoir lus ou vus auxquels on a joué. Et du coup, Shadow of the Colossus, moi je connaissais ce discours du c'est peut-être nous le méchant en fait, on fait des choses mal en tuant les colosses qui sont peut-être des gens gentils. Ce sentiment d'errer un petit peu très le monde, et même les designs du coup des colosses qui sont aussi censés être des vraies surprises, certains colosses qui volent, tu vois, tout ça je le connaissais déjà, parce que je suis pas non plus ultra représentatif, tu vois, je me renseigne beaucoup sur le jeu vidéo ou des jeux qui sont sortis, donc je connais encore plus, tu vois, quand même que la moyenne, hein, faut le dire. Et du coup, bah, comme tu le disais, ouais, j'ai pas été surpris par beaucoup de choses où bah, j'avais déjà digéré en fait ce discours, ce rapport à la violence. Et du coup, j'ai découvert bah, les contrôles ou la caméra. Mmh. Bah, comme Xer le disait, le jeu vidéo, c'est intimement lié à la technologie. Ça en devient un atout et un défaut. Ça fait partie du truc. La caméra, elle sert parfois Shadow of the Colossus, où quand tu vas courir sur les plaines, la caméra, elle recule un petit peu pour te rendre ça un petit, pour laisser la place au paysage en fait, et aussi peut-être
oui, jouer sur les échelles, les perspectives,
c'est ça, voilà, soutenir un peu ce sentiment d'immensité par rapport à toi. Mais la caméra aussi, clairement, c'est le 17e colosse du jeu, quoi. Il y a des moments où les colosses, ils vont passer un bras devant toi quand t'es accroché à eux, et là, elle s'emballe, tu vois. Elle sent qu'il y a. Elle sent, tu vois, le contact physique du truc. En fait, t'as l'impression que derrière la caméra, dès qu'il y a quelque chose qui est à 5 mètres à peu près derrière la caméra, elle se repositionne un petit peu au-dessus de toi. Donc, c'est pratique quand t'es dos au mur, du coup, tu te vois un petit peu de haut. Mais si t'es dans ce cas-là et que le colosse il est au-dessus ou sur les côtés ou que t'étais accroché à de la fourrure et que c'est à cause d'un bras qui passe que la caméra se met à bouger, c'est très compliqué. Il y a plein de moments où l'action en fait elle est pas du tout lisible. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont gardé en fait dans le jeu. sans compter bah après l'ergonomie, je vais pas non plus faire toute la liste comme s'il y avait 20 trucs, mais un autre truc qui m'a dérangé, qui me semble daté, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je suis sûr d'avoir déjà joué à des jeux qui faisaient ça, c'est la question du référentiel de saut. Ou alors pour la faire simple, je vais prendre un exemple. Imaginez, vous avez en fait deux rebords de plateforme qui sont face à face. Il y en a une qui est vous en tant que joueur à votre droite et à votre gauche, et par rapport à Wander, en fait il va être accroché à l'une, ce qui veut dire qu'il a l'autre dans son dos.
Exactement,
en fait.
Ouais.
Et du coup, en tant que joueur, si tu veux sauter de droite à gauche, tu veux mettre le joystick vers la gauche, tu vas tout dire saute à gauche. Sauf que ici, le jeu, c'est pas comme ça que ça marche, c'est par rapport à Wander, c'est-à-dire que
donc
tu dois
c'est
mettre...
dans son dos.
C'est dans
ça.
Son
donc
dos.
Tu fasses arrière avec
c'est
la
ça, mystique. Tu vas mettre le joystick vers toi pour qu'il aille à ta gauche, en fait. Mais faut se mettre à sa place et se dire, bah, c'est derrière par rapport à lui. Et c'est un peu source de confusion quand en plus t'as des mains, t'es accroché à une main de colosse qui bouge. Il faut que tu te signifies en fait la direction dans laquelle tu dois sauter, avec la caméra qui déconne, l'input de saut qui est pas toujours le même. Enfin bref,
disons que ça crée un problème d'ergonomie en fait, de facilité, et de parfois tu vas être frustré par des choses qui ne devraient pas être frustrantes en fait. Et je pense que ça peut être problématique dans les jeux un peu de plateforme 3D comme ça, un peu à l'ancienne. Moi je me souviens que par exemple le premier Prince of Persia qui est sorti sur PlayStation 2, donc Sands of Time, je crois que t'avais aussi des sauts un peu comme ça. Et je sais pas si c'était la même chose, donc je vais pas me lancer dans les trucs, mais j'ai souvenir aussi de cette frustration de me demander est-ce que je vais en arrière, est-ce que je vais à gauche.
Ça a toujours été compliqué en fait quand t'es suspendu à un truc. Bah ouais. Ils avaient mis en place le bouton pour regarder derrière soi, et ça a aidé pas mal, mais c'est vrai que ça a toujours été compliqué. Alors des fois ils mettaient juste une touche pour sauter d'un truc à l'autre, mais forcément et là en plus ce qui peut être vraiment fascinant avec Shadow of the Colossus, c'est que quand ils font leur travail de restauration, ils doivent aussi ils doivent définir des limites en se disant qu'est-ce qu'on change, parce que effectivement depuis 2006 la plateforme en 3D et la gestion de la caméra, a priori on a fait des efforts, hein. On a fait quelques gros progrès là-dessus. Et donc, est-ce qu'on change ou pas les contrôles du jeu ? Alors, ils ont fait des micro-changements qui sont à peine perceptibles et pour essayer de rendre, en fait, l'expérience authentique. Et ça, c'est vraiment, je trouve, très intéressant dans leur approche, parce que souvent, quand il y a des reboots ou des remakes comme ça, typiquement, le jeu dont on prenait en exemple dans la préparation, c'était Ratchet & Clank, qui avait re-eu en 2016 un reboot complet du premier épisode avec des graphismes dignes du film d'animation, mais aussi des contrôles et un gameplay qui avait été revu. Et le jeu était beaucoup plus souple. Tu sentais que il avait été amené dans l'époque moderne en termes de contrôle. Mais comme Shadow of the Colossus, la difficulté ou les contrôles pouvaient être une partie de l'expérience, et que ça, du coup, c'est difficile à déterminer dans quelle mesure c'était intentionnel ou pas de la part de Fumito Ueda et de son équipe, la Team ICO, il s'appelle d'ailleurs. Je pense qu'ils ont préféré jouer la sécurité en se disant, on va le conserver, ces contrôles-là. Ça va être un petit peu contre-intuitif, ça va surtout être complètement anachronique par rapport à ce qu'on connaît en 2018, mais ça fonctionne malgré tout. Après, c'est vrai que ayant connu le jeu à l'époque, j'ai pas ressenti ça, mais je peux comprendre que quand tu découvres totalement, ça doit être un peu choquant.
Ils ont fait quand même un vrai parti pris, parce qu'ils ont changé certains contrôles. Il y a par exemple, avant sur PS2, pour faire une roulade, il fallait appuyer sur deux boutons, c'est genre R1 et peut-être triangle, un truc comme ça. Là, c'est juste rond, tu vois. Ils ont modernisé certains aspects du jeu, où en termes d'ergonomie, ils ont rajouté beaucoup de plateformes en fait sur certains bâtiments. Ils ont quand même changé des petits trucs, et c'est vrai que sur les contrôles, ils ont dit, alors bon, la roulade, faut pas déconner, on va la mettre sur rond. Le bouton de saut aussi, c'était triangle à l'époque, et là, ils ont mis croix, parce que je crois que c'est plus proche de ton pouce. En fait, ton pouce, il est déjà dessus, c'est un des boutons que tu utilises
N'est-ce
le plus.
N'est-ce pas Nintendo?
Et du coup, ils changent un peu ça. Ouais. Mais ils ont modernisé des petites choses, mais c'est vrai qu'à côté de ça, bah, toute l'idée de la caméra et du référentiel de saut, bah, ça, ils l'ont gardé, peut-être, parce que, bah, comme vous le disiez, ça respecte une philosophie de l'époque.
Mais ça, du coup, ça sera intéressant, et moi, j'aimerais bien, en fait, que le studio Bluepoint, il diffuse une espèce de post-mortem de leur travail de restauration, parce que, comme on est toujours, si tu veux, moi, je réfléchis à un autre truc, c'est qu'on est toujours en train de chercher à savoir ce que c'est un jeu vidéo. À l'heure actuelle, personne n'est capable de vous dire un jeu vidéo, c'est ça. Il n'y a pas de définition claire et nette qui existe. Et donc, quand je me dis qu'on a comme ça des travaux de restauration qui se demandent dans quelle mesure la complexité d'un contrôle va jouer sur l'expérience, je pense qu'on commence à avoir des indices. Tu vois, ça, je me dis qu'il y a quand même des petites hypothèses, il y a des choses à essayer de creuser là-dedans, et je serais vraiment très curieux d'une de savoir sur quoi ils bossent Bluepoint aujourd'hui, mais qui vraiment ils aillent au bout. Tu vois, j'aurais adoré que, comme pour God of War, il y ait des documentaires très longs du Birth of Shadow of the Colossus remake PS4. Tu vois, j'en sais rien. Ça aurait été, je pense, fascinant parce qu'ils ont fait un travail qui est presque unique dans l'histoire du jeu vidéo.
Mais ils ont quand même fait une petite vidéo. Alors évidemment, c'est pas un truc très long qui rentre dans tous les détails, mais si vous voulez un petit peu vous renseigner dessus, dans la série de vidéos Audiologues de GameSpot, il y a le technical director, je crois, de Bluepoint, qui explique un petit peu bah, toutes ces démarches là, ce qu'on disait sur le fait qu'ils aient changé les boutons, rajouté des rebords, tu vois, avec leur intention c'était de refaire le jeu un petit peu comme ils s'en souvenaient. Il explique un petit peu tout ça. Ça reste quand même beaucoup des exemples, en fait, à dire bah, là on a fait ça, là on a changé ceci, cela. Mais un autre truc qu'on peut remarquer quand même, ça ils en parlent pas forcément, c'est il y a quand même une grosse différence, je trouve, en tout cas quand je regarde les images des versions PS2, PS3 et PS4, dans la lumière et quand même parfois à certains endroits, vraiment la palette de couleurs, tu vois, il y a des différences, tu vois, vraiment parfois le désert, je sais plus si c'est la version PS2 et PS3, parce que les deux ont aussi des petites différences plus ou moins subtiles. T'as une des deux versions, le désert il est beaucoup plus orange, et dans la version PS4, bah, il est beaucoup plus jaune, en fait, il tire beaucoup plus vers le jaune. Et un des trucs qui marquait, qui apparemment a fait un petit peu l'identité du studio de la Team ICO, lors de ICO et de Shadow of the Colossus, c'était l'utilisation du bloom, donc de la lumière hyper saturée, en fait, et qui vient vraiment parfois brouiller certaines textures du jeu. T'as la scène notamment où Wander il va mettre Mono sur l'hôtel, t'as de la lumière qui vient dehors et qui bouffe les colonnes, en fait, vraiment
c'est
de lumière.
Ouais.
Et sur la version PS4, la lumière est très réaliste, c'est vraiment des petits rayons de soleil, les colonnes tu les vois complètement, donc il y a quand même, tu vois, une vraie différence, sans dire que ce soit moins bien ou meilleur ou quoi, hein, on est vraiment, bah, c'est peut-être là aussi que se situe l'expression remake, je sais pas vraiment.
Bah ça après c'est une discussion qu'on vous laissera vous sur le Discord, ouais. Mais par contre ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'effectivement quand on est comme ça dans un travail de restauration d'une œuvre qui en fait n'existe que parce qu'il y a des contraintes technologiques à une époque, la faire passer à quelque chose de plus moderne, ça soulève tellement de questions, parce que c'est vrai qu'ils ont dû se dire, mais pourquoi on va laisser des choses, est-ce qu'on va laisser un gros brouillard, tu vois, est-ce qu'on va laisser comme ça le champ de vision qui va pas aller au-delà de 20 ou 30 mètres, parce que ben, à l'époque ils pouvaient pas le faire, nous aujourd'hui on peut le faire, mais justement il faut se remettre dans la peau des artistes de l'époque qui utilisaient ces contraintes pour justement essayer d'exprimer quelque chose, et c'est là où le travail de restauration il peut trouver ses limites, parce que il faut voir dans quelle mesure tu peux soit coller aux intentions ou y apposer toi-même tes propres intentions, parce que forcément il y a une décision, il y a forcément une prise de décision, ils peuvent pas faire la fidélité, c'est pas possible, hein. Quand il y a une adaptation,
c'est Silent Hill 2, tu vois, avec le brouillard, tu vois, typiquement c'était une problématique technique, ce brouillard, et qui a fait quand même l'identité du jeu. Aujourd'hui si on refaisait ce jeu là si on faisait vraiment un remake, le brouillard on le travaillerait pas du tout.
Il faudrait le faire de manière volumétrique, beaucoup plus naturelle, mais pour redonner la même chose ça serait très compliqué.
Ou c'est comme ce qu'ils ont fait avec RE2 Remake finalement, où ils ont choisi pour, en fait avant t'avais les plans fixes des caméras, c'est ça qui te donnait un petit peu cette ambiance confinée. Là dans le RE2 Remake il se sert en fait de la lampe torche pour vraiment limiter ton champ de vision et continuer à créer la peur malgré le fait que tu aies le contrôle sur la caméra, tu vois. Donc effectivement il y a cette transposition qui est, c'est un travail qui est vraiment intéressant, de retranscrire quelque chose avec les outils actuels.
Et ça pose vraiment la question de la différence entre une intention et une œuvre, parce que on pourrait dire que, tu vois, l'intention de Ueda c'est de faire ressentir telle émotion, mais l'œuvre c'est le résultat de ses intentions avec les contraintes de l'époque. Donc les textures étaient floues, le bloom était peut-être un petit peu utilisé en cache-misère, et peut-être que aujourd'hui, tu vois, si Ueda pouvait refaire Shadow of the Colossus ou le faisait en 2019, les textures ne seraient pas floues, mais quoi qu'il en soit, le Shadow of the Colossus de 2006, il a des textures floues, et l'œuvre a des textures floues point barre, tu vois, ça, le Shadow of the Colossus de l'époque, ça, c'est pas discutable. Et en fait, dans certaines personnes qui y ont joué, elles peuvent apprécier, en fait, ces textures floues, se dire, bah, le jeu, il est comme ça, moi, le flou de ces textures, ça me stimule l'imaginaire, en tout cas, du coup, j'ai l'impression de m'en souvenir vraiment en détail, alors que, concrètement, pas du tout. Alors que la version PS4, il y a des détails, tu pourras jamais t'en souvenir, en fait, précisément, parce qu'il y a des détails incroyables, les mecs, ils ont retapé un petit peu l'architecture, ils t'ont rapporté des détails sur les
paysages, ils ont refait complètement les montagnes, les forêts, les trucs, enfin, la première fois que t'arrives dans la forêt, dans la version Play 4, t'es quand même sur le cul, parce que ça envoie du pâté, quoi.
Et je pourrais comprendre, tu vois, sans forcément dire voilà, cette personne a raison ou tort, il n'y a pas de façon de tort ou de raison, mais une personne qui va dire bah, moi je déteste la version PS4 parce que pour moi Shadow of the Colossus c'est du flou, c'est des textures voilà, où je vais pas attarder mon regard dessus, où je vais m'attarder plutôt sur le ciel, sur le brouillard. Et t'as des gens qui vont citer le grain, tu vois, comme identité de Shadow of the Colossus, où je rematais le combat contre le premier colosse où t'as ce brouillard et tu le vois qui s'approche de toi, donc avec les textures qui s'affichent progressivement à mesure qu'il traverse le brouillard. Mais ça donne une impression de combat complètement différente, le fait d'avoir un monstre qui est dans du brouillard, et quand il marche, ça fait de la fumée, tu vois même pas ses pieds, bah ça donne une impression différente que d'avoir un truc complètement net, en fait.
Mais de toute façon, on a cette question-là, c'est ça qui est rigolo, c'est que moi je trouve que ça montre en fait que le jeu vidéo est arrivé à une certaine étape de son existence et une certaine maturité, parce que c'est des questionnements qui existent déjà dans la littérature, le cinéma ou les autres médiums depuis toujours. Tu vois, il y a eu des restaurations de livres avec des versions modernisées de certains textes, j'ai plus d'exemples en tête, mais il y a pas mal de textes qui ont été revus au goût du jour pour les moderniser pour des romans ou des fictions un peu des classiques.
J'imagine Shakespeare ou peut-être même la Bible, hein, tout simplement.
Oui, mais alors la Bible, évidemment, c'est l'exemple, mais c'est parce qu'a priori, c'est pas le livre que tu lis comme ça chez toi pour ton petit kiff perso, mais bon, faites ce que vous voulez. Mais oui, il y a des exemples comme ça. Alors évidemment, après, dans le cinéma, on va penser à Star Wars, où ils ont refait des versions, où ils rajoutaient des effets spéciaux après coup, pour intégrer tel ou tel acteur et tel ou tel autre acteur différent. Et forcément, il y a des gens qui vont jurer que par la version, on va dire... Même moi, pour moi, tu vois, à l'époque, alors, petite anecdote pour Star Wars, moi, tu vois, à l'époque, on avait Canal, et je sais pas si vous vous souvenez, Canal+, avec le vieux décodeur, où il y avait un code que tu recevais tous les mois, alors ça, vous avez pas dû connaître, vous deux. Mais en gros, dès qu'il y avait des éclairs ou des effets très particuliers, l'écran se brouillait et ça restait sur la VHS, tu vois. Et du coup, dans ma tête, à chaque fois qu'il donnait des coups de sabre laser, ça faisait bzz, bzz, et ça, l'écran il devenait tout bizarre, tu vois. Et donc, dans ma tête, Star Wars, c'est ça. Il faut qu'il y ait cette cradosserie, ce côté très sale de la VHS, sinon ça ne reste pas Star Wars.
Écoute, moi en 96, j'ai vu Star Wars en crypté sur Canal+, et c'est comme ça et pas autrement, ok.
Mais oui, non, mais c'était pas en crypté, mais tu vois, c'est. Mais du coup, le moment où tu vas recevoir l'œuvre va forcément influencer sur ton expérience, et ça, c'est très intéressant parce que forcément, bah, si toi, t'as jouer au jeu de 2006, rejouer au jeu aujourd'hui, ça va mettre en opposition tes souvenirs, les fantasmes que tu as du jeu et la réalité de ce que tu vois sur ton écran. Et je peux tout à fait comprendre que ça peut choquer.
Mmh, oui, tu as des gens qui vont évoquer les vinyles en disant ils aiment bien ce petit crépitement de fond et d'autres pas du tout. Après, c'est la question aussi de à qui appartient l'œuvre. Tu vois, est-ce qu'elle appartient au public et la façon dont il la reçoit, ou est-ce qu'elle appartient à l'auteur et ses intentions, il en fait ce qu'il veut. George Lucas, il a clairement sa réponse où il enlève les anciennes versions de Star Wars pour mettre les nouvelles à lui, tu vois, donc lui c'est Star Wars, c'est ça, et point barre, mais c'est tout à fait légitime de se dire bah non, moi je préfère cette version, celle-là, mais il n'y a pas de réponse.
Non, il n'y a jamais de réponse en fait, c'est à nous qui choisissons le format et le
rien
contexte.
Rien n'est vrai, tout est permis.
Mais exactement, merci Ubisoft. Et non, mais c'est vraiment ça qui joue finalement, c'est toi, le moment où tu vas faire le jeu et l'impact va finalement déterminer ton expérience, et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est des trucs qu'on aborde finalement assez peu dans le jeu vidéo. Moi j'en parle des fois parce que j'aimais bien mettre en avant le contexte dans lequel on va tester un jeu quand c'est ton métier.
Je pense que c'est très important. Ouais.
Et ce contexte-là, ben, si tu reçois le jeu en 2006 à l'époque, ben, moi dans ma tête, le jeu il ressemblait à ce qu'il ressemblait sur Play 4 parce que ben, c'était la pointe de la technologie dans le contexte. Donc forcément, il y a comme ça des espèces de dissociations très, très étranges. Mais bon, voilà, bon, je pourrais parler pendant des heures de tout ça.
Mais non, mais pour terminer, on peut dire que c'est vrai qu'à l'époque, Shadow of the Colossus, qui vraiment tapait dans les réserves de la PlayStation 2 pour vraiment exister, et apparemment il y avait des soucis de framerate et compagnie, mais bon, voilà, c'était quand même un jeu qui devait être impressionnant, je pense, visuellement, comparé aux autres jeux. Par contre, bah, sa suite, puisque bah, c'est le premier jeu le plus vieux dont on parle, on a déjà une suite spirituelle, en tout cas, qui est The Last Guardian. Lui, il est arrivé à un moment totalement différent, c'est-à-dire que déjà, bah, c'était un jeu... vous y avez joué, vous, à The Last Guardian?
Non,
moi
j'ai joué une heure, après j'ai eu envie de vomir et après j'ai arrêté.
Moi j'ai fait la moitié.
C'est déjà un témoignage intéressant.
Non, mais c'est pas lié à la qualité du jeu, c'est que jeu, on en parlera, c'est un jeu qui arrivait tout cassé. Ouais. Sur une Play 4 classique, il tourne très mal, il y a une gestion de l'inertie dans la caméra qui me donne la nausée, donc j'ai pas pu jouer au jeu. J'ai presque acheté une PS4 Pro juste pour y rejouer, mais j'ai jamais eu le temps jusqu'à
maintenant. Et ouais, du coup, un jeu qui est pas du tout arrivé à la même époque, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que, enfin, je sais pas si on peut vraiment juger de l'impact de The Last Guardian aujourd'hui, mais en tout cas on peut déjà bien le comparer à Shadow of the Colossus. Déjà, il n'a plus du tout cette, pas cette avance, mais il est plus du tout dans une espèce de pic technologique, puisque le jeu devait être fait sur PS3, et vraiment sur PS4 il est un peu à la ramasse, même si ça reste joli. Clairement, il y a une esthétique qui est particulière, et Ueda arrive toujours à faire des choses avec la lumière et qui font qu'il y a quand même une vraie identité visuelle dans ces jeux. Et puis surtout, c'est ce qu'on disait pendant la préparation, c'est se dire, depuis, il y a eu ce que je disais, le jeu vidéo indépendant, et le jeu vidéo, il a pris d'autres formes. Il y a des jeux beaucoup plus, je pense à Firewatch, des trucs comme ça, qui ont essayé vraiment de proposer des choses différentes et de jouer sur des émotions, ne pas se concentrer sur un game design qui est juste dans la récompense et dans la boucle de gameplay, des trucs comme ça.
Et dans la violence aussi, oui, comme tout à fait. Unique solution de progression.
Oui, il y a Journey, je pense qu'on peut... Voilà,
ça c'est le grand classique.
Ouais, de toute façon, les deux, ils sont très liés forcément. Ouais. Mais tu peux parler de Papers, Please, enfin, tu peux parler de tout un tas de jeux qui t'ont fait réfléchir.
Ouais, ouais.
Ce qui fait qu'Ueda, en fait, quand il est arrivé, il était tout seul, et quand il est revenu avec The Last Guardian, le jeu vidéo avait déjà changé complètement, finalement, de visage.
Ouais, et du coup, c'est vrai que il a une position qui est complètement différente, quoi. Avant, il était un précurseur, et là, je dirais pas qu'il est dans le moule, parce qu'il fait quand même quelque chose, et surtout, il fait toujours son jeu vidéo à lui, c'est-à-dire que The Last Guardian, ça reste quand même dans la continuité de ce qu'il a voulu créer, les thématiques, on le disait, du sacrifice, du lien, de l'opposition entre l'ombre et la lumière, et d'ailleurs, je pense que vous pourrez retrouver ça dans le livre de Damien, mais c'est vrai que à ce moment-là, The Last Guardian est beaucoup moins percutant et beaucoup moins important, je pense, dans le jeu vidéo que ne pouvait l'être Shadow of the Colossus. Et c'est pour ça, moi, je me dis, c'est toujours aujourd'hui un grand nom du jeu vidéo, Ueda, mais j'attends plus grand-chose de lui. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas de cette personne-là. Je me dis que le jeu vidéo, ça y est, il va pouvoir grandir, devenir un art, si vous voulez, même si, pour moi, c'est déjà le cas depuis longtemps. Mais voilà, il a plus du tout la même place qu'il avait, je pense, avec Shadow of the Colossus.
Non, c'est intéressant, hein, son parcours. Faudra qu'on... Alors, évidemment, c'est encore trop tôt pour en parler, mais je pense que dans quelques années, ça serait intéressant justement de revenir sur ce parcours-là, où à une époque, il était effectivement avant-gardiste, très clairement.
Ouais,
il était à l'avant-garde de tout ce qu'on pouvait imaginer.
Il avait son background aussi, où il avait étudié des arts classiques, et déjà rien que ça à l'époque, tu vois. Dans
oui,
le jeu
oui,
vidéo,
lui, il venait de l'animation, ouais. Il venait pas forcément du jeu vidéo au départ, donc il avait déjà effectivement un background différent. Ça serait intéressant de revenir un petit peu sur son parcours, parce qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire qu'il est un peu has-been, dans la mesure où.
Ouais, peut-être un
parce
peu.
Que,
ouais.
Parce que du coup, il est arrivé beaucoup trop tard, son jeu, il a mis énormément de temps. Enfin, un jour peut-être qu'on fera un épisode juste sur The Last Guardian, parce que rien que le contexte de création c'est tout un merdier. Il est parti de chez Sony, il est revenu, ils l'ont annoncé sur Play 3, le jeu finalement il sort sur Play 4, ils ont été obligés d'envoyer leurs propres forces pour finir le jeu eux-mêmes. Ça a été la croix et la bannière pour le voir arriver, ce jeu là et donc quand il arrive, même si ça faisait partie de ce fameux E3 avec les trois annonces FF7 Remake, Shenmue 3, The Last Guardian, où on avait les dates, finalement à l'arrivée le résultat n'était pas à la hauteur, il y avait une espèce d'aura qui dépassait finalement le résultat.
Exactement.
Donc c'est pour ça je pense qu'il faut qu'on attende encore quelques années pour vraiment avoir l'esprit froid sur tout ça, mais par contre on peut dire que clairement Ueda il a réussi à marquer son époque, même si aujourd'hui il n'a plus cette aura là, clairement on lui doit je pense beaucoup.
L'attente autour de The Last Guardian témoigne en tout cas vraiment de l'impact de Shadow of the Colossus et de la place même qu'il avait réussi à obtenir dans le catalogue de Sony, quoi. Enfin vraiment tu vois, The Last Guardian c'était une des grosses cartouches, tu vois, quand Sony montre son panel de ce qu'on va proposer sur notre console, vraiment, The Last Guardian, c'est une image qui est toujours là, quoi. Donc, ça montre à quel point l'auteur comptait pour le publisher, quoi.
Mmh. Surtout que ça a commencé à déterminer la ligne éditoriale qu'ils ont aujourd'hui, hein. Sony, ils se sont vraiment complètement aujourd'hui approprié cette idée-là de mettre en avant des auteurs, de mettre en avant ce côté émotion, etc. Quand ils mettent en avant quand ils arrivent à avoir Death Stranding en exclu, quand ils arrivent à montrer The Last of Us 2, etc., etc., ils ont vraiment une ligne éditoriale qui a, je pense, démarré avec des types comme Fumito Ueda, très
quand
clairement.
Quand tu vois Cory Barlog aujourd'hui, tout ce qu'ils font avec ce mec-là, à quel point ils ont tout fait pour l'identifier comme le nouveau papa de God of War et tout, aujourd'hui c'est vraiment lui le visage de God of War, et j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire ça, effectivement, avec leur grosse licence.
Le truc qui doit jouer un petit peu avec ce côté, alors c'est violent dit comme ça, mais le fait qu'il soit un peu has-been, tu vois, Ueda, parce que ce qu'on disait, c'était que c'était un peu un précurseur à l'époque, avec avec un discours bah, un peu qui venait légitimer le jeu vidéo en disant bah voilà, le jeu vidéo, regardez, ça peut aussi être ça, avec en se questionnant sur la violence, avec des moments d'errance et tout. Donc comme vous l'avez dit, il y a eu le jeu vidéo indépendant et d'autres auteurs, ou même tout simplement d'autres jeux, hein, qui ont apporté ce genre d'expérience. Mais il y a aussi, je pense, un côté d'acceptation tout simplement de ce qu'est une grosse partie du jeu vidéo. La violence, oui, mais il peut y avoir un game design intelligent, complètement assumé derrière. La violence n'est pas forcément stupide, en fait.
Ah non, clairement.
Et vous parliez de God of War avec Barlog ou de The Last of Us, bah, c'est des jeux qui sont quand même très violents et qui ont des mécaniques pas révolutionnaires en termes de défoncer ses ennemis. Mais aujourd'hui, on est peut-être un petit peu plus capable aussi d'apprécier, d'assumer ces expériences et de justifier ça, sans forcément dire de le cacher en disant non, mais regarde, j'ai aussi Journey, j'ai aussi The Last Guardian. Dire bah non, c'est cool, c'est intelligent, ça me fait vivre ça, ça veut aussi transmettre des émotions qui sont tout autant légitimes que la mélancolie ou la tristesse, quoi.
C'est ça, c'est que quand Shadow of the Colossus est sorti, dans le contexte de son époque, c'était peut-être le seul, tu vois, c'était vraiment un jeu unique au milieu d'un océan de jeux beaucoup plus bas de plafond, on va dire, pour parler, pour je caricature, hein, parce que c'était pas forcément le cas. Alors qu'aujourd'hui, bah, quand The Last Guardian y sort, il y en a eu en fait beaucoup des jeux qui se sont inspirés. Donc c'est assez intéressant parce qu'il n'a pas donné naissance à un genre. Par contre, je pense qu'on pourra dire peut-être dans quelques années, quand on aura assez de recul, qu'il a donné naissance à un courant de philosophie et de création et de design du jeu vidéo, parce que clairement des jeux qui s'en sont inspirés. C'est difficile de retrouver des traces de Shadow of the Colossus parce qu'il y a peu de mécaniques, on l'a dit, hein. C'est soit tu grimpes sur des colosses et dans ce cas-là ça y ressemble, mais dans les intentions, le côté design ça, par la soustraction, ces intentions-là, on le retrouve chez tout un tas d'auteurs. Il y a un grand nombre de créateurs qui citent Fumito Ueda comme une inspiration, et donc forcément, bah en fait, c'est pour ça, je pense, qu'il se retrouvait à être finalement moins impactant quand il est sorti avec The Last Guardian, parce que bah, il avait déjà en fait donné naissance à toute une génération de créateurs qui s'inspiraient de son boulot, quoi.
Et c'est pour ça que ça reste un jeu important, et c'est pas étonnant que bah, Sony le ressorte comme ça sur sa PlayStation 4 juste après The Last Guardian. Alors on en discutait juste avant, on se disait est-ce que c'est un désaveu de on pense pas, parce que je pense qu'il l'aurait fait quoi qu'il arrive, même si The Last Guardian avait très bien fonctionné.
Désaveu, c'est peut-être le nombre de ventes qui est peut-être supérieur.
Oui, ça par contre, effectivement, est-ce que le Shadow of the Colossus remake c'est mieux vendu que The Last Guardian, ça je ne sais
pas.
Ah
oui, oui. Ouais. Bah, je pense que de toute façon, ils en auraient parlé des chiffres de vente de The Last Guardian. Ouais. S'ils en étaient fiers, ils en auraient parlé. Et par contre, les chiffres de vente de Shadow of the Colossus pour le remake, on les a. Donc, non, je pense qu'il s'est effectivement très très bien vendu. Et ça a peut-être un peu. Alors, dans le contexte, ça a peut-être été une sorte de réconciliation de dire bah oui, Fumito Ueda. Peut-être que là, bon, son dernier jeu, c'était un peu un raté. Mais parce que trop tard, parce que ceci. Moi, j'y ai toujours pas joué, donc je peux pas encore donner mon avis là-dessus. Mais par contre, bah voilà, oubliez pas, il avait fait Shadow of the Colossus. Et souvenez-vous comment c'était trop bien. Et surtout maintenant, vous allez pouvoir en profiter sur votre écran 4K HDR, machin. Profitez-en. C'est beau.
Et peut-être même sur PS5 après, hein, le 3, les amis, j'ai des rumeurs.
des rumeurs, on en a plein, mais bon, le 3, ça commence jeudi avec la truc Google. Hein,
ah oui, c'est vrai que...
Ça commence hier, hein, pour les personnes qui écoutent
oui,
le podcast.
Oui, voilà, ça commence hier.
Voilà, d'ici là, on saura ce que Google nous réserve pour le jeu vidéo. Ouais. Mais on fera pas d'épisode spécial E3. Hein. C'est
ah non,
le but
non,
de
non,
fin
non,
du game.
Non, clairement
on
pas,
en parlera
c'est
peut-être
pas
chacun sur nos chaînes respectives,
oui,
mais voilà.
Oui,
c'est,
oui,
c'est juste que comme c'est le sujet de discussion en ce moment...
Sur le Discord.
Oui, exactement. Voilà, sur le Discord, là, effectivement, je pense qu'on pourra échanger nos impressions de tous ces magnifiques trailers qu'on va pouvoir recevoir dans la tronche pendant ces quelques jours de 3. Merci de nous avoir écoutés. L'idée, c'est vraiment pas de faire cette espèce de célébration de Shadow of the Colossus, mais vraiment de comprendre pourquoi ce jeu, il est important. Et comme tu le disais, je pense que c'est vraiment ça, ce jeu qui a créé une nouvelle génération, qui a participé en tout cas à inspirer une nouvelle génération dans ce qu'il voulait faire avec le jeu vidéo. Et effectivement, comme tu le disais aussi, Maxime, cette idée de d'abord penser à ce qu'on veut faire ressentir plutôt que tout de suite faire rentrer dans une espèce de cahier des charges qui pourrait correspondre, genre le combat, les puzzles, les machins et tout. Donc ça, merci messieurs. Et puis on remercie encore une nouvelle fois Third Edition pour le sponsoring et pour ce livre qu'on vous recommande, donc l'œuvre de Fumito Ueda, une autre idée du jeu vidéo. Vous pouvez trouver le lien dans la description. N'oubliez pas aussi de nous soutenir sur Patreon, c'est très important pour faire vivre l'émission.
Et
puis
dites-nous
retrouve...
aussi ce que vous avez pensé de cet épisode-là, parce que quand on revient comme c'est, on n'a pas encore eu trop l'occasion de revenir sur des jeux assez anciens. Si vous êtes encore en train de nous écouter après une heure quelques d'émission, déjà d'a priori ça vous a plu. Mais dites-nous dans quelle mesure, comme d'hab, maintenant on le sait, vous venez sur le Discord, on pourra avoir comme ça, nous, des retours, savoir s'il faut changer, modifier ou faire évoluer des choses.
Très bien. Et merci beaucoup. À bientôt dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Fin du Game.
Salut.
Ciao.